Bonjour, bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire en ce début de nouvelle année 2009.
Bonne
podcast
année
82.
Bonne année.
Et voilà, ça y est, on est reparti en 2009, plus fort, plus vif, plus étincelant, plus gamer que jamais.
Plus vieux surtout.
Et plus vieux, oui.
Non, non, oui.
Et pour ce podcast de rentrée, j'ai envie de dire, ce premier podcast de l'année 2009, émission 82, eh bien nous allons la dédier à cette belle nouvelle année, en tout cas qu'on espère belle, les perspectives 2009. Où est-ce que cette année va-t-elle nous emmener ? 2008 a été un cru exceptionnel. 2009, ce présage sous de très très bons augures. Et pour parler de tout ça, eh bien, nous avons réuni de nouveau la Dream Team de la fin d'année, celle qui vous avait fait rêver, avec Guillaume de LCI. Bonjour, ça va bien Guillaume ?
Bonjour et bonne année.
Passez de
bonnes
fêtes.
Un peu mal aux cheveux quand même.
Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée.
Oui, voilà.
Il y a Plume aussi qui est parmi nous. Ça va Plume ?
Bah non. Ah. J'ai un peu mal au ventre.
Mais tu restes superbe et étincelant.
Ouais,
la classe à l'italienne, quelque part. Et Marcus aussi, qui est parmi nous.
Bonsoir.
Bonjour. Bonjour Marcus, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces fêtes ?
Je fais mon Franck Dubosc. J'ai envie. Je me l'étais pété la dernière fois un peu. Oui, merci.
Bonjour public. Voilà. J'ai un écran géant, je prends le mien.
Viens jouer chez moi, j'ai un écran géant.
Donc, vous l'avez compris, on repart sur des très très bonnes bases avec. Avec bien sûr Julo, Raan et Caf autour de la table à repasser qui elle n'a pas changé en ce début d'année.
Très belle cool.
Je rappelle bien sûr que vous pouvez participer bien sûr à la table au repassé-t-on. Vous aussi, cotisez-vous.
Elle a pris un coup de brûlé là.
Voilà,
quand même,
c'est ça. Envoyez-nous des nouvelles tables à repasser.
Est-ce qu'on peut mettre sur vapeur
plaisir.
Pendant l'émission pour voir ce que ça fait.
Pour ça faire chaud. Là,
c'est une nouvelle option qui devrait arriver en 2009.
Très bien.
Alors, dans cette émission sur les perspectives de cette année, nous allons parler bien évidemment des jeux les plus attendus et il y en a énormément bien sûr. Resident Evil 5 qui arrive bien sûr en mars, Final Fantasy 13 qui devrait arriver cette année, le jeu de la Team ICO normalement qui devrait arriver cette année et qu'on attend mais avec impatience ici, God of War 3, Uncharted 2, Killzone 2, Heavy Rain, GTA 4, The Lost and Damned, un nouveau Metal Gear, je sais pas, on verra, enfin tout ça on va en parler. Mais avant de parler, de rentrer vraiment dans le vif du sujet des jeux, on va parler aussi des grandes tendances. Et pour ouvrir le bal, j'aurais envie de laisser la parole à Guillaume et de vous poser à tous une question. Pourquoi en 2009, ce ne serait pas l'année de l'explosion du jeu vidéo en télévision, puisque le média, on l'a vu en fin d'année, s'est véritablement ouvert. Malheureusement, il reste encore très peu d'espace d'information sur les médias hertziens ou TNT. Pourquoi ? Et là, Guillaume, tu es assez bien placé.
On s'y essaye juste un petit peu.
Ouais. Hein, on en est où ?
Bah écoute, ça fait deux ans et demi que je parle de jeux vidéo sur LCI, qui est une chaîne généraliste quand même. Traditionnellement, chez les directeurs de chaîne, le jeu vidéo est segmentant, c'est un truc qui parle qu'aux jeunes. Et on l'a vu justement avec l'ouverture au plus grand public, le grand succès de la Wii. Les mamies, les papis, les grands-parents, les enfants, les parents, tout le monde joue ensemble. Et de fait, vu comme il y a un succès derrière, bah, il y a une niche qui s'agrandit, il y a un public et de fait ça intéresse de plus en plus les directeurs de chaîne. Faut pas se leurrer,
c'est pas une niche, c'est un chenil tellement.
Oui, voilà, il y a de plus en plus de chiens comme dans Nintendo. C'est formidable.
Oui, il faut pas
grand
oublier.
Grand
chenil
chez Marcus. Donc,
il faut pas oublier que selon la Sofresse, selon des chiffres Sofresse, désormais il y a quasiment 30 millions de Français qui se déclarent jouer régulièrement aux jeux vidéo. C'est la moitié des Français.
C'est énorme. Donc, on n'en est pas encore à avoir une émission de jeux vidéo sur les chaînes hertziennes. Ouais. Ça viendra peut-être. On l'espère tous.
Nous en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure.
Ça fait 10 ans que j'y travaille. Chaque année, je peux te dire, quasiment. On va voir les gens
de
Canal, de France 2, de France 4.
Doucement,
c'est très difficile et tu as raison, ils te disent toujours c'est segmentant. C'est leur gros mot préféré.
Mais déjà, honnêtement, de mon expérience à l'intérieur d'LCI, je vois que les mentalités changent, c'est clair. Ça a été surtout aussi aidé par le changement de génération, il faut être clair. On a changé de.
Les vieux sont morts,
que nous appelions de nos voeux, comme on dit.
Ils ne sont pas morts, ils ont été promus à de plus hautes responsabilités. Si voilà, ils ont monté dans les étages.
Là où la moquette est plus épaisse.
C'est plus épaisse. Putain, service d'étage, enfin bon. on a changé de rédac chef, on a changé de directeur de rédaction. Ces gens, entre 40 et 50 ans maximum, ils ont déjà touché un paddle. Il y a 30 ans, ils jouaient à Pong. Enfin, tu vois, c'est des gens qui. Tu leur parles de jeux vidéo, ils connaissent, tu veux. Que ce soit par l'aspect économique ou par simplement y avoir joué par eux-mêmes. Notre nouveau directeur était l'ancien responsable de la section économique à LCI et il parlait de l'E3 du point de vue financier depuis des années et des années.
On reparlera justement de l'E3 dans ses perspectives.
Donc de fait, maintenant c'est plus ouvert et je pense qu'il y a une carte à jouer cette année et il faut en profiter à fond. Et ce ne sera pas que casual non plus parce que quand tu parles de casual, ça t'ouvre aussi la porte à parler d'autres choses, des vrais jeux, entre guillemets, parce que voilà, je trouve que c'est ce qui est un vrai jeu. En tout cas, de parler du jeu vidéo en général comme loisir grand public, ouais, au même titre que le cinéma, que la musique. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en fin d'année dans la sélection de Noël. Il y a eu une grande émission.
Avec quelqu'un qu'on connaît un petit peu aussi.
Une grande émission cinéma, ouais, télé, va, là, DVD et vidéo.
Tout à fait, et tu voilà, as bien raison de le souligner. Les choses changent, effectivement, Marcus, mais il y a encore pas mal de chemin à parcourir.
Il y a du boulot, hein. Chaque fois que tu vas voir des chaînes, je vais aller voir France 2, par exemple, bah, on t'oriente immédiatement vers l'unité jeunesse. Alors, tu te dis, mais non, mais vous savez, la moyenne d'âge du joueur, c'est 28 ans maintenant, entre 25 et 28, c'est fini, hein. C'est plus un jouet depuis longtemps. Ils veulent pas en démordre, mais tu as raison, parce que c'est des vieux souvent.
Il faut attendre le changement de génération.
Donc il faut attendre le changement de directeur.
On y arrive.
Mais c'est vrai que ça fait honnêtement
5 ans maximum.
Ah,
je
pense. Ah, alors là, voilà, j'allais poser la question, est-ce qu'en 2009, on a un peu de chance de voir ça? Alors bien sûr, là, maintenant tout de suite, c'est
moi, j'y
mort.
Crois, c'est
plutôt la rentrée.
Surtout avec la suppression de la pub sur le service public, il y a besoin de nouveaux programmes, si tu veux. Ils vont devoir combler les quelques heures à remplir tous les jours par le manque de pub. C'est l'occasion ou jamais de lancer.
Je pense que ça passera par la TNT, comme d'habitude.
Oui,
Tout ce qui est arrivé de nouveau est toujours arrivé par le canal, enfin par le satellite et le câble. Regarde la mode des séries télé qui cartonne aujourd'hui. C'est arrivé avec Jimmy qui passait Friends en VO, etc. C'était des trucs qu'on faisait pas, des séries télé en VF. T'en avais pas beaucoup déjà, mais enfin voilà. Donc je trouve que le câble a été précurseur. Regarde Comédie qui a découvert les Robins des Bois, etc. Enfin, le câble a toujours été précurseur de ce qui se passerait à la télé. Il leur faut toujours 2-3 ans aux chaînes hertziennes pour digérer ce qui se passe sur le câble et satellite. Toutes les émissions, toutes les chaînes jeunesse, ouais, toutes les chaînes, on va dire jeunesse de comment, du câble du satellite ont leur émission de jeux vidéo, que ce soit MCN, Game One, No Life, enfin bon, voilà, il y a des émissions de jeux vidéo sur toutes les chaînes qui se destinent ne serait-ce qu'aux plus jeunes, quoi. Et il y a toujours pas ça sur les chaînes hertziennes. Donc voilà, maintenant, je pense qu'ils ont compris grâce à Wi-Fi et à plein d'autres choses que le jeu vidéo c'était aussi fait pour tout le monde, pas que pour les enfants. Et j'espère que 2009 sera l'année de la
ça
première émission
mais ça
depuis
va dans
longtemps
bon sens, en tout cas,
voilà, de jeu vidéo à la télé.
CAF.
Non, mais je voulais préciser que c'est vraiment une histoire de personne. Donc, quand tu parleras de rajeunissement, il y avait des vieux aussi, parce que quand moi je bossais sur RTL, s'il n'y avait pas eu Olivier Mazerolle à l'époque pour dire tiens, il faut faire du jeu vidéo, etc. Ok, c'était la mode du multimédia aussi, hein, ça aidait. Mais c'est passé parce que lui, il adorait ça. Et quand j'ai été convoqué, tout le monde pensait que, dans son bureau, tout le monde pensait que j'allais prendre cher. Et en fait, non, pas du tout. Il voulait savoir quel était le meilleur jeu de foot, par exemple. Tu vois, donc c'est vraiment une histoire de personne. Quelles personnes ont le pouvoir et ce qu'ils veulent faire. Bon, dans les grands médias, ça évolue.
Bon,
ça, je trouve ça régresse en fait quasiment. Enfin, moi j'ai travaillé à Cyberflash sur Canal Plus dans les années en 95.
Oh, non, parce que
c'était une émission quotidienne.
95,
on parlait
2000.
De. Ouais, non mais on parlait
j'étais
de jeux
gamin,
vidéo.
J'étais devant ma télé.
Donc voilà, c'était une émission où tous les soirs sur Canal, on parlait de jeux vidéo, d'internet à l'époque où personne n'avait internet et tout. C'était une quotidienne. Il n'y a pas eu d'émission consacrée aux jeux vidéo sur les chaînes hertziennes depuis ce temps-là quasiment.
Je pense qu'effectivement pour voir aussi les patrons de chaînes, etc. Il y a un vrai truc qui est en train de changer. Et Guillaume a assez raison là-dessus. Ils sont en train de comprendre, convaincus par les chiffres.
Voilà.
C'est un peu triste, hein,
ça,
c'est pas par
ça,
la qualité
passe par l'économique, faut pas se leurrer.
Par les chiffres, qu'il y a un vrai marché, que potentiellement ça peut leur faire venir des nouveaux partenaires, de la publicité, etc. Et du coup, bah, je pense que c'est par l'économie que génère le jeu vidéo aujourd'hui qu'on pourra convaincre effectivement ces décideurs de chaîne qu'effectivement il y a une vraie attente derrière et donc des vrais enjeux qui pourraient leur rapporter quelque chose et ils auraient à récupérer un peu de cette part de ce gigantesque gâteau crémeux. Voilà, le jeu vidéo à la télé 2009. On croise les doigts, c'est pas encore fait. Ça existe effectivement de manière ponctuelle sur des
sur le câble et satellite. Il y a tout ce qu'on veut.
Effectivement.
C'est les hertziennes qu'il faut maintenant.
Autre grand débat et autre grande perspective de 2009. Les nouvelles consoles, les consoles next-gen. Alors on se dit, voilà, vous venez probablement peut-être parmi vous d'acheter une nouvelle console. Alors c'est peut-être une PS3, une Xbox 360 ou une Wii, voire une console portable. Mais déjà se profilent de plus en plus des premières rumeurs, des bruits couloirs sur les consoles next-gen, j'ai envie de les appeler, puisque aujourd'hui on appelle encore les consoles next-gen les consoles actuelles. Il faudrait commencer à s'arrêter en 2008, même 2009. Mais 2011 paraît de plus en plus se profiler comme la date clé de l'arrivée de la PS4, la Xbox 720, on ne sait pas comment les appeler.
Oh, j'ai hâte de savoir, 120. Qu'est-ce que j'ai hâte de savoir, comment est-ce qu'ils vont l'appeler.
Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces bruits de couloir, de ces premiers frémissements, et en tout cas, quelles seraient vos visions à vous de à quoi pourraient ressembler ces prochaines consoles? Qui veut prendre la parole, Raon?
Ouais, pourquoi pas. Tu veux que je prenne la parole?
Oui, je te l'offre.
Ok, c'est alors moi je ne pense pas qu'on entendra parler de nouvelles consoles cette année.
Enfin, peut-être des rumeurs, tu vois, ou des choses comme ça, parce qu'on en a déjà entendu parler l'année dernière de toute façon, par voie de rumeurs aussi très vagues, très floues, très venteuses. Mais ça se précisera peut-être un petit peu en 2010, à mon avis. Et ce qui j'attends le plus, c'est donc effectivement de savoir le nom de la prochaine Xbox. Ça, c'est vraiment le truc que j'attends. Et
qui te dit que là
je suis vraiment
impatient
d'abord. C'est ça. C'est ouais, bah voilà. Et puis
la Xbox après tout.
Et de voir aussi dans l'autre sens. De voir aussi dans la longueur sur 2009 comment la Wii va se comporter suite à son immense succès jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ses limites vont transparaître auprès des publics qu'elle a conquis ou pas? Est-ce que ceux-ci vont vraiment faire une transition vers d'autres façons de jouer que nous on connaît mieux? Donc, je sais pas, niveau nouvelle console, je pense pas que ça va bouger énormément. Si on fait exception, faites des révisions genre DSi, PSP 4000 ou je sais pas quoi. Tu vois.
Bah, DSi, justement, on en reparlera dans quelques instants. Mais moi, si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a quand même un autre élément clé en 2009 qui va arriver, c'est l'E3 qui ressuscite normalement, qu'on annonce comme un vrai retour d'un vrai E3 et pas cette espèce de, effectivement, comme le mime très bien CAF, le mort-vivant de l'E3. Voilà, donc l'ESA, donc, qui dirige un petit peu toute cette espèce de grande kermesse du jeu vidéo, a donné les dates officielles. Ça se tiendra du 2 au 4 juin 2009. C'est un véritable retour au Convention Center, pas parqué soit à Perpète-les-Oies, à Santa Monica, soit dans une espèce d'aile atrophiée du Convention Center. Non, là, c'est vraiment l'E3 comme on le connaissait les années passées. Est-ce que vous pensez que justement, pour relancer la machine, pour recréer du buzz, on va pas avoir droit à des bribes d'informations de la part de Microsoft? On sait aussi par petite information que Sony aurait envie probablement de partir avant Microsoft pour les griller et pas commettre l'erreur de la PS3. Est-ce que c'est pas l'occasion à cette E3 justement de lancer des premières cartouches?
Marcus. Un peu tôt, moi ça me paraît un peu tôt, mais voilà. Bon, enfin, moi, juste pour revenir sur l'E-Cube, tant qu'on ne va plus à la psych, ça me va. Je n'en peux plus de faire 900 km en bagnole, de me retrouver même plus dans des hôtels parce qu'il n'y a plus de place.
En avion, ouais, oui, mais les longs courriers, rappelle-toi.
En première classe avec ma Nintendo DS qui dure 10 heures. Mais non, mais parce que pendant ce temps-là, Leipzig a pris de l'importance et c'était un très chouette salon d'ailleurs, bien organisé, très sympa, avec beaucoup de choses à voir. Mais parce qu'il n'y a pas d'hôtel à Leipzig, ou alors ils sont pris très vite. Il n'y a plus non plus de billets d'avion ni même de train pour Leipzig si tu ne t'y prends pas assez tôt. Et donc, 2 années de suite, on s'est tapé des trajets en voiture de 900 bornes. C'est absolument épuisant. On a dormi dans des maisons de retraite parce qu'il n'y avait plus d'hôtel. Il n'y avait plus d'hôtel. Alors, pour un truc high-tech, et puis c'est vraiment l'Allemagne de l'Est hein, quand même. Ça reste l'Allemagne de l'Est, Leipzig. Voilà. Non, vraiment, le salon est très chouette, l'endroit est très chouette, mais tout ce qu'il y a autour, c'était assez terrible. Donc, quel bonheur de retrouver le soleil de Los Angeles. J'ai encore l'imprimé et les hôtels avec jacuzzi de Santa Monica au bord de la mer près de la grande roue. Voilà,
il est énorme.
Et le pire, c'est que c'est vrai.
Guillaume, raison, ouais, Guillaume. Effectivement, complètement. Et puis en plus, avec des dates un peu plus cohérentes, un 2 au 4 juin, c'est mieux que perdu au mois de juillet. Voilà, où tout le monde est en vacances. Et...
Tout à fait.
Très clairement, nous, au mois de juillet, en télé, on pouvait pas y aller. Il y a pas d'émission, c'est clair. Donc, au mois de juin, c'est bien pour tout le monde. C'est la fin d'année en plus.
Début de vacances.
Très beau, très chaud. Et puis voilà.
Oui, prenez-moi un billet pour la semaine d'après parce que je vais faire des reportages.
Voilà, on va rester.
Ok, donc visiblement, personne ne croit. Peut-être Julo aussi.
Si, moi, personnellement.
Bah, mais tu crois à Shenmue, mec?
Ah. Oui, peut-être, on verra. Toi, tu l'as dit avant moi.
C'est trop balèze. J'étais grillé, je suis trop fort.
Moi, personnellement, je pense que, en tout cas, du côté de Microsoft, ils risquent d'annoncer des trucs cette année.
Bah, n'oublions pas que la Xbox est 2005.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. La Xbox a été lancée en 2005. Ils profitent encore de l'avance qu'ils ont eue sur la PS3. Je pense qu'ils veulent reproduire un peu ce schéma. Faut rappeler, tu disais que Sony veut sortir un peu plus tôt, mais Sony, il reste toujours encore la dernière fois qu'on les a vus de manière officielle sur le cycle de 10 ans. 2005, ça veut dire 5 ans plus tard, ça fait 2010. Là, on est en 2009. Pour moi, il va y avoir au moins une évocation de la prochaine console de la part de Microsoft cette année.
Oui, parce qu'on sait toujours qu'à partir du moment où ils commencent à en parler, la console en elle-même n'est pas commercialisée au moins 2 à 3 ans après.
Disons,
2011 commence à être à peu près la date qui revient constamment, 2009, 2011, 2 ans.
Aujourd'hui, la Xbox, elle coûte 130 euros. Elle est gavée de jeux.
Justement.
Ils ont progressé, ils y sont arrivés grâce à cette avance, etc. Franchement, moi, à mon avis, cette année, on parle de la 720.
Je suis d'accord avec toi pour dire que c'est probablement eux qui ouvriront le bal en termes de communication ou qui laisseront, parce que ce sera peut-être pas fait aussi de manière officielle, tu vois, il va y avoir des rumeurs, on sait pas d'où c'est sorti, puis eux ils vont juste dire non, nous n'avons rien à déclarer, alors que ça peut être très bien à l'origine des trucs, mais je pense pas justement qu'ils communiqueront cette année dessus parce qu'ils sont maintenant, après le Noël là, en train d'attaquer sur une gamme de prix qui est vraiment le grand public. en dessous de la barre des 200€ et tout. Et je pense que c'est là qu'ils vont vraiment passer leur année un peu rythme de croisière.
Oui, mais attention,
on y va.
L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu vois, aujourd'hui, la PS2, la PS2 n'est pas encore morte.
Oui.
Et ça, enfin, je veux dire, maintenant, encore plus qu'avant, une console ne remplace pas son prédécesseur immédiatement.
Non, bien sûr.
Il y a une période de buffer de 2 ans, quoi, voire plus même. Ça fait
une période buffer. Ça, ouais. C'est une
période tampon. Une période tampon en français.
Ouais, ouais. Voilà. Julot qui fait des termes techniques. Eh ben putain.
Et puis n'oublions pas aussi qu'apparemment, selon les premières rumeurs, hein, cette fameuse PS4 serait pas un monstre de technologie comme la PS3. Ce serait un peu le même cycle que la Wii, c'est-à-dire une PS3 x2, pas plus, et surtout qu'elle reprendrait le sel, l'architecture, ouais, pour la rentabiliser justement.
Voilà, c'est ça.
Et ce serait une autre approche.
Avec des codeurs qui savent la programmer, en
peut-être, probablement complémentaire de la PS3. Enfin,
avec
pour
peut-être une reconnaissance de mouvement dans la manette.
Ouais, c'est possible.
Oh, quelle grande idée, ça.
Ah ouais, c'est une bonne idée, ça.
C'est genre, tout le monde l'oublie, mais elle reconnaît les mouvements, la manette de la PS3. Alors, le problème,
c'est que même les développeurs l'oublient.
Personne ne le sait.
Même les développeurs.
Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui leur demandent de l'oublier aussi.
Voilà.
C'est vrai que c'est pas super
pratique. Parce que, par exemple, dans Uncharted,
on pourrait faire quasiment la même chose avec une PS3 qu'avec une Wii. C'est quasiment le même détecteur de mouvement. On peut pas pointer l'écran avec une PS3, mais on peut parfaitement la secouer.
Ça marche sacrément moins bien. La preuve étant, par exemple, dans Uncharted, le premier, ils utilisaient la fameuse 6-axis. Dans le 2, ils abandonnent. Alors que c'est quand même un éditeur dédié de Sony, exclusif, c'est quand même un signal que...
Oui, mais avec les petits canards de Robodob qu'on peut télécharger pour pas cher, on utilise vraiment la manette de la PS3.
Dans Mirror's Edge, version PS3, le premier truc que tu désactives, c'est la 6-axis.
Non, je suis d'accord, c'est pénible. Ouais.
Dans l'air Storm aussi, ce jeu catastrophique.
Dans quoi
Non.
Le dragon,
non, désolé d'en parler.
Non. Magnifique, mais pas terrible.
On l'oublie, celui-là.
Bon, les rumeurs de nouvelles consoles, effectivement, pour l'instant, c'est effectivement trop tôt pour le dire, mais ça pourrait, aux alentours d'un sacré mois de juin, revenir un petit peu d'actualité. Quelque chose qui va faire forcément, en tout cas, le buzz en cette année 2009 et qui nous intéresse, gamers, ici, à plus d'un titre, c'est est-ce que l'année 2009 va être l'année de Nintendo avec des jeux gamers ? 2007, 2008, Nintendo écrase la concurrence à force d'ouverture, avec beaucoup de grands jeux aussi, hein, Twilight Princess, Mario Galaxy, Mario Kart, mais c'est vrai que dans le lot, y a quand même cette vague casual, et Nintendo l'annonce, on va s'intéresser plus aux gamers. Un nouveau Mario, un nouveau Zelda, des nouvelles licences inédites, Julot ?
Bah oui, mais simplement c'était le cas cette année aussi, faut juste dire que le problème ne vient pas forcément de Nintendo, mais des éditeurs tiers. Le principe étant que Nintendo fabrique des grands hits, il y a eu Zelda, il y a eu Mario Sunshine, Mario Galaxy, Mario Kart, etc. à un rythme plutôt, si on considère vraiment comme un éditeur, à un rythme intéressant. Après, les éditeurs tiers, eux, se sont tous engouffrés, comme on l'a dit dans le dernier podcast sur 2008, dans la brèche casual, tous à fond la caisse, en se foutant de la gueule du client, etc. Il est plus là le vrai problème, à mon avis, que vraiment chez Nintendo en tant qu'éditeur.
Eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Faire un Mario, un Zelda, ça se fait pas en 6 mois non plus.
Exactement.
Donc, on a forcément une période incompressible entre deux Mario et entre deux Zelda. Après, c'est vrai, les éditeurs tiers n'ont pas vraiment joué le jeu là-dessus. Parce que, pareil, ils développent en même temps pour la PS3 et pour la 360, parce que voilà, ils arrivent à avoir des plateformes communes sur le développement, et après, c'est plus compliqué sur la Wii. Forcément, on ne peut pas faire la même chose.
Et puis, en fin d'année 2008, on a quand même eu des annonces majeures, justement, d'éditeurs tiers, du côté du Japon, ça a eu un vrai retentissement. Un Dragon Quest, qu'on connaît avoir une importance d'ampleur, Dragon Quest X, sur Wii.
Ça, c'est très gros. Pour le marché japonais, en tout cas, c'est énormissime.
Monster Hunter,
énorme au Japon. Ouais.
Et puis il y a aussi
à mon avis,
GTA.
Capcom va vouloir vraiment imposer Monster Hunter en dehors du Japon aussi, quoi, parce que on connaît Capcom et ils comptent vraiment sur le marché occidental. Mais il y a pas que ça. No More Heroes 2 a été annoncé. Il y a Mad World.
Il y a The Conduit qu'on surveille techniquement aussi.
Voilà, c'est plus technique à mon avis que autre chose. Mais peut-être que
je suis pas bon, mais pour l'instant par Conduit.
Non, mais ça reste quand même une bonne production. C'est vrai que c'est pas forcément 1000 fois plus beau qu'un Metroid Prime 3 a priori. Non.
Et Nintendo va nous réserver des surprises. On prie tous pour un F-Zero, franchement, je crois.
Là, je vois des Maxis, Marcus, Caf, avec des regards exaltés.
F-Zero, ça doit être cette année.
Punch-Out, ça t'intéresse pas
c'est... Punch-Out, pas trop, non.
Moi, putain, j'en ai rien à foutre.
Ouais, non, mais c'est incroyable. Ouais. Je trouve qu'il y a.
Essaie de recycler les vieilles gloires. Ça va être bizarre, cette histoire. Ils vont tout ressortir.
Mais ça se trouve, ça sera très bien. Mais bon, si je veux faire de la boxe, j'ai Wii Sports, mine de rien.
C'est un peu l'idée, ouais, c'est ça. C'est quand on sort, quand on annonce, il va y avoir des jeux gamers et que le seul jeu qu'on t'annonce, globalement, c'est Punch-Out, un jeu que t'as un peu l'impression d'avoir eu au lancement de la machine avec le jeu de boxe de la Wii.
Rhabillé,
tu fais
quoi,
un peu quand même. Il y a eu un malentendu. Il s'est passé quoi là?
Non, j'ai dit nouveau dans ma phrase. Nouveau comme dans neuf.
Ouais, c'est un petit peu étrange.
J'en ai un peu en rond. Ouais.
Donc en tout cas, vous êtes plutôt confiant pour l'année 2009 sur l'arrivée de jeux gamers à la fois Nintendo et éditeur tiers.
Ah justement,
sur
Wii. La question ça se pose au niveau des éditeurs tiers. Pour l'instant, il y a Mad World. Mm-hmm. Et voilà, il faut qu'il y ait d'autres éditeurs tiers qui partent dans cette voie, quoi, qui se rendent compte qu'ils vont tous se casser la gueule s'ils continuent à faire que du casual.
On rappelle effectivement, et ça c'est quand même assez symptomatique, Resident Evil sur Wii, donc le Wiimake de la version GameCube, et le Resident Evil qui s'est le plus vendu en France de tous les temps, de tous les Resident Evil, avec un peu plus d'un 1 million d'exemplaires. Donc l'épisode Wii, ça c'est quand même assez unique. Donc preuve que même des jeux gamers et un peu violents marchent sur Wii.
À chaque fois que Nintendo a fait des trucs qui sortaient de la norme, de ces petits bonhommes avec des gros nez et des moustaches, ça a cartonné. Le Resident Evil 4 sur GameCube, ça a été monumental, quoi. GoldenEye à l'époque sur Nintendo 64, ou même Conquer Bad Fur Day, le petit écureuil qui était ivre mort et qui tuait tout le monde. Bah, dès qu'ils s'écartent de leur image enfant, gosse, rigolo, sympa, ça cartonne à chaque fois. Et vraiment, mais ça leur a réussi. Donc, par exemple, j'attends beaucoup de Mad World, qui est vraiment extrêmement violent pour un jeu Wii. C'est hallucinant de voir ça sur un jeu Wii. C'est violent au second degré, mais c'est extrêmement violent, justement. C'est tellement violent que ça en devient drôle. On ne peut pas faire autre chose que de rigoler quand on décapite un mec, qu'on l'embroche.
Mais c'est vrai que dans le même temps, on est un peu attristé, nous, ici, d'avoir vu l'échec commercial d'Okami, qui est un jeu extraordinaire de l'année dernière et qui pourtant n'a vraiment pas rencontré son public, comme on le dit, alors que c'est un succès critique incontestable.
Toutes les versions Wii étaient
très bien. Ouais.
Très bien.
Ouais, bah ouais, mais bon, enfin, ça c'était pareil sur PS2, donc il y a vraiment un truc qui accroche pas, quoi, je sais pas.
Qui attire pas les gens.
Les gens n'aiment plus la poésie. Voilà, ils n'aiment que le tuning.
Ça, c'est les fêchetis.
C'est les limos.
Bon, en tout cas, l'année 2009.
Ouais, moi, je suis pas super confiant pour autant pour la Wii. Ouais. On va voir. Peut-être quand on aura entendu parler des prochains jeux des équipes Miyamoto, et je pense qu'on en entendra parler vraiment sérieusement, on pourra peut-être avoir une meilleure vision d'eux, mais ça sera toujours pareil. C'est des grosses cartouches qu'on va attendre. Et une fois qu'elles sont tirées, on sera super content, mais on sera encore dans une position d'attente. Moi, j'en suis persuadé.
Et donc, je le rappelle, hein, aujourd'hui, si on cumule les ventes de Xbox 360 et de PS3 dans le monde, on arrive quasiment aux ventes globales de Wii dans le monde. Donc une avance colossale pour une console qui n'est même pas sortie en avance, hein, je le rappelle. Est-ce que c'est l'année 2009, c'est aussi peut-être un ralentissement du phénomène, ou oh non, c'est ce qu'on s'était dit en 2008 et puis pas du tout, ça va continuer de plus belle.
Non, on n'avait pas dit que c'était l'année de la PS3 déjà, ouais. 2008. Ouais. Donc au niveau des prémonition, comme ça on va y aller mollo.
On s'était pas trompé de ça par rapport à la France.
Des questions.
Non, c'est vrai.
Mais bon,
on s'était pas trompé en France.
Les gars, là, hein.
Ouais, on a été moyens sur cette histoire. Mais c'est
moi,
vrai.
Moi, je pense qu'en 2009, il y aura des crises.
Pour la Wii, je suis enfin, moi, je le vois comme ça. Maintenant, je suis perverti par mon côté un peu gamer où je me dis, il y a bien un moment où les gens vont se rendre compte, mais qu'il y a deux jeux par an. Mais il y a tellement de produits finalement casual qui sont réussis, qui moi me parlent pas, mais qui parlent à tout le public. Forcément, je suis mitigé quand je vois que les trucs de cuisine ont cartonné sur DS. Je relativise certaines choses.
Ouais, à la fois, il était bien.
Deux jeux par an, ça leur suffit.
Ah, hein, oui, c'est sûr.
Non, mais voilà. Ils ont de moins en moins de temps pour jouer. Au prix que ça coûte, mon bon monsieur, avec la crise en plus, hein, bon,
cela dit, il suffirait d'un F-Zero bien placé. Ouais. Non, mais c'est ça qui est hallucinant, parce que Nintendo, il leur faut 2-3 jeux bien répartis sur l'année, et puis c'est reparti. Quoi. Enfin, ça sera pas arrêté, ils continueront le mouvement perpétuel.
Mais c'est vrai que finalement, on est une minorité qui gueule très fort, mais on reste une minorité finalement.
Exactement.
Je pense que la plupart des gens qui ont acheté tous ces millions et ces millions qui font la différence. Entre ceux qui ont acheté la Wii à deux fois le double de la PS3 et de la 360, bah c'est des gens qui F-Zero, ils connaissent pas et ça les intéresse pas.
On rappelle que le jeu le plus vendu dans le monde l'année dernière, c'était Wii Fit. Bah, dans le monde.
Non, il ne passera pas par moi.
Bon, mais en tout cas, puisqu'on est sur Nintendo, on y reste, parce que Nintendo, quoi qu'il advienne, continuera à faire l'actualité, puisque au printemps sortira la DSi. Elle est sortie au Japon il y a déjà quelques semaines là-bas. Et elle marche très bien. Alors la DSi, qu'est-ce que c'est? C'est une DS Lite améliorée, deux écrans un petit peu plus grands, l'apparition de caméras, l'apparition aussi, on peut manier un peu le son en MP3, prendre des photos, mais ça reste quand même assez limité.
Quand même.
Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'application ou même de jeu spécifique qui en tire vraiment parti. Alors est-ce que vraiment elle va faire un peu d'actualité, un peu voilà, ou où est-ce qu'on peut satisfaire pour l'instant de sa DS Lite ?
Je crois que le deuxième écran est tactile aussi, ce qui n'était pas le cas de la première. Les deux écrans sont tactiles, j'ai entendu dire ça. Je pense que voilà, ça peut changer. Moi, je fais toujours confiance à Nintendo pour inventer des trucs. Et ils font une console, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, on ne voit pas bien. Et puis, ils trouvent des idées incroyables. Par exemple, dans Cooking Mama, le fait de souffler sur le micro pour refroidir la soupe, c'est con, mais il fallait vraiment y penser. Un micro, on se dit, c'est fait pour parler. On ne pense pas que souffler dedans pour gonfler les voiles d'un Zelda ou pour refroidir la soupe, on n'y pense pas.
Zelda est bourré de trucs comme ça aussi. Voilà, Zelda DS,
le coup du tampon dans Zelda, il y a un moment où tu as sur l'écran du bas un papier qu'il faut tamponner et le tampon est sur l'écran du haut. Il faut replier ta console, la refermer pour tamponner l'écran du bas. Voilà.
Il y a aussi un endroit où tu n'as pas la carte et tu dois la dessiner en faisant le tour de l'île et à chaque fois en crayonnant sur le. Et tu dessines la carte en fait qui manque.
Voilà, donc c'est plein ça c'est des idées brillantes. Même chose avec la Wii, l'idée dans Wii Fit de pas utiliser pour le coup le Wii Balance Board, mais de mettre la Wiimote dans ta poche pour faire courir, du jogging et de courir, c'est con, mais il fallait y penser. Donc je trouve que. Ils arrivent toujours chez Nintendo à tirer un parti incroyable de ce qu'ils ont créé. Donc la DS, c'est vrai qu'on voit pas forcément bien à quoi ça va servir deux écrans tactiles, mais t'inquiète qu'ils vont trouver.
Non, mais en plus, Marcus a complètement raison parce que rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, quand il y a eu la DS qui est sortie, puis quelques mois après la PSP, beaucoup de gamers ont dit ah bah ça y est, la DS c'est fini, hein, regardez les graphismes incroyables de la PSP,
regardez etc. Aujourd'hui.
Regardez les chiffres et regardez même les jeux parce qu'au final, on joue à quoi ? On joue à la DS.
Oui. Non, j'allais juste dire, oh les cons. Heureusement qu'on n'était pas parmi eux. Parce que pour le coup, là, ouais.
Ah, même dans Ninja Gaiden, qui est un putain de jeu d'action, ils avaient trouvé des trucs pour utiliser le micro. Quoi. Et moi, ils m'ont mis en galère parce que dès le début du jeu, il faut gueuler sur un vendeur pour qu'il se réveille, pour qu'il puisse continuer l'aventure, en fait. J'étais obligé de regarder sur le net au départ, tellement j'y ai pas pensé, quoi, tu vois. Donc, bon, ouais. Non,
c'est ta surprise, justement.
Ah, mais carrément, j'ai fait. Mais c'est le but. Comment on le réveille ce con alors je cherchais des trucs et tout à faire dans le niveau. Puis à un moment, je regarde sur le net, tellement ça me gave, il fait, ouais, faut gueuler dans le micro. Oh il y a un micro, c'est moi j'ai oublié. Voilà.
Non mais ils sont en train de bousculer nos habitudes. Hein.
Maintenant il y a juste un problème, c'est que si jamais par exemple le prochain Zelda a envie d'utiliser une caméra pour faire tel truc, il faut qu'il pense à
tous ceux qui ont des DS Lite.
Voilà, donc ils peuvent le faire, hein, ils peuvent ajouter des bonus ou des trucs facultatifs qui concerneront que la DSi, mais ça n'empêche qu'il faut qu'ils peuvent pas oublier, ils peuvent pas sortir un Zelda que pour la DSi.
Ron a tout à fait raison, je plus toi, et je rajouterais que la DSi n'a même pas de port GBA. Et ça, quelque part aussi, c'est, je sais pas, c'est un changement de politique chez Nintendo. Je comprends pas. C'était certainement pour réduire la taille, etc. Mais bon, ça a pas trop de sens vis-à-vis de la philosophie de Nintendo, quoi.
C'est vrai que jusqu'à présent, ils ont toujours été très très sympas sur ça. Tu peux réutiliser tes cartouches de la première Game Boy sur toutes les consoles qu'on suit quasiment, à part quelques exceptions prêtes. Dans la période où ils merdaient, où toutes les deux semaines on avait une Game Boy Micro, une Game Boy couleur machin carré ou pas carré. Enfin bon, voilà. Et heureusement, avec la DS, tout ça s'est posé. Je savais pas que ça n'était pas rétrocompatible, je trouve que c'est dommage.
Et c'est dommage parce que d'autant que des gros jeux qui sont sortis il y a pas si longtemps et qui ont cartonné sur DS, genre Guitar Hero, voilà, utilisent le port GBA pour mettre le petit accessoire pour la guitare et du coup, bah, il sera complètement obsolète. Alors est-ce qu'ils vont inventer quelque chose ? Je sais pas. Plume, tu voulais.
Bah, peut-être, je sais pas, une émulation logicielle comme ils veulent faire sur PS3 depuis un an et demi.
Exactement. Justement, c'est avec la DSi qu'ils veulent lancer un store virtuel où tu téléchanges aussi les jeux. Donc, a priori, ils vont forcément te revendre les jeux GBA.
Un peu sous le modèle d'Apple avec l'iTunes.
C'est totalement le modèle de Nintendo. Faut pas rêver. On te revend la même chose 4 fois tout au long de la génération.
Mais est-ce que justement, parce que ça, il y avait un petit peu une lutte, et on en parlera tout à l'heure dans le podcast aussi, de l'iPhone qui bascule et change un petit peu les mentalités aussi au niveau du jeu, mine de rien. L'iPhone qui arrivait avec l'Application Store qui surcartonne sa base de centaines de millions de téléchargements. On parlait aussi un petit peu d'une lutte d'influence parce que l'iPhone c'est tactile, c'est un bel écran, c'est quasiment un peu le meilleur des deux mondes, l'écran, la technique de la PSP et le côté tactile et rigolo de la DS. Nintendo en a peut-être eu un petit peu peur, et la DSi pour certains était une sorte de réponse. Guillaume, qu'est-ce que t'en penses ? L'Application Store, c'est un peu ce que veut faire Nintendo avec la possibilité de télécharger des jeux, des applications qui seront pas forcément que du jeu aussi, des agendas, la météo.
Ils sont grave en retard quand même. Ah oui. Hein. C'est pareil sur la Wii. Tu peux pas comparer le WiiWare avec ce qui se passe sur PlayStation Network ou sur le Xbox Live. C'est pas possible, quoi. Donc ils ont vraiment besoin de mettre les bouchées doubles là pour arriver à faire quelque chose de bien. Donc je suis circonspect, mais on va voir. J'attends de voir.
Et surtout, techniquement, ils ont toujours le problème du stockage en plus d'applications.
Que ce soit sur la Wii ou la
DS. Ils ont un problème de hardware qui vient avec le software.
Alors il y a la possibilité dans la DSi d'avoir une carte SD pour mettre un petit peu de mémoire.
Ouais, non, mais on parlait de la Wii là. Et, comment dirais-je ? Il manque des choses quand même.
Mais je pense qu'en 2009, il y aura une solution qui sera apportée.
Ils ont dit qu'ils apporteraient une solution à ce stockage.
Il est temps.
Nous sommes d'accord.
Une nouvelle Wii ?
Ah, pour relancer les ventes.
Oui, une Wii avec un disque dur.
Juste un truc, faut rappeler quand même que la DSi a été vraiment balancée au moment où il y avait un tout petit déclin des ventes et c'était prévu
au
comme
Japon.
Ça. Elle est dans les cartons depuis super longtemps et le principe de la DSi c'est de continuer à faire des top scores à
et
vendre,
ça marche.
À revendre une nouvelle console, etc. Évidemment, ça marche, ça va marcher en Europe aussi, je pense.
Mais une nouvelle Wii, oui ou non.
Oh là là. Ok.
Non et pourquoi pas une nouvelle Wii avec un affichage HD avec un disque dur.
L'HD sur la Wii, ça serait
reconnaissance cérébrale.
Avec un casque.
Moi j'y crois.
Ça marche très bien en laboratoire.
On a perdu plume.
En laboratoire, ça marche effectivement. Il y a des, surtout qu'ils ont réussi à décrisser les rêves ces derniers temps.
Yu Suzuki, le père de Shenmue, parle d'un plan. En tout cas, lui, c'est une piste qu'il aimerait développer. Non, c'est les implants pour jouer. Hein.
Yu Suzuki étant considéré comme un dieu par plusieurs personnes dans cette salle, je pense que c'est faisable.
Quand c'est trop invasif, ça marche moins bien. Regardez le Virtual Boy, quoi. Enfin, tu te mettais la tête dedans et
tu vomissais. Tu vomissais dessus.
T'étais trop. Non, honnêtement. Je sais pas, je leur fais confiance pour inventer quelque chose, mais peut-être pas non plus l'implant cérébral. Hein, je sais pas. C'est...
D'accord. Allez, 2009, hormis Nintendo, il y aura aussi pas mal d'actualités. L'année dernière, en 2008, on avait évoqué la potentielle année de la PlayStation 3. En France, finalement, on n'a pas eu si tort que ça, puisque c'est celle qui, pour les consoles HD, s'en est sortie finalement le mieux. Néanmoins, au niveau mondial, il y a un vrai souci. Hein. La dynamique n'est clairement pas du côté de la PS3 en cette fin d'année et début d'année 2009. Alors, la vraie question, et tous les analystes sont d'accord là-dessus, et je pense qu'on ne pourra pas faire autrement qu'abonder dans leur sens, Sony doit baisser le prix de la PS3, c'est indispensable. Il faut le savoir, début 2009, il y a une réduction aussi du processeur, du sel, en termes de taille, la gravure va passer de 65 nanomètres à 45. Alors, dans l'absolu, on s'en fout un peu, sauf que ça induit à la fois baisse de prix, baisse de taille, et on évoque l'apparition d'une PS3, mais pas avec le 3, mais on écrit comme la PS2 et la PS1 à l'époque, donc en slim.
PS3 slim.
Exactement. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait arriver en 2009 et que Sony va enfin baisser les prix et que la dynamique va enfin être lancée pour Sony sur la PS3? Caf.
Techniquement, je pense qu'ils vont le faire parce que de toute façon, c'est prévu. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix parce qu'il va falloir vraiment que commercialement, ils boostent la console. Vu les courbes de vente, vu la concurrence, ils ont effectivement un gros problème à gérer à ce niveau-là. Et puis le problème, c'est que ça ne suffira pas. Il va leur falloir des jeux. Parce qu'ils n'ont pas de jeu pour l'instant. Il faut des jeux.
C'est un problème. Une console, ça ne sert à rien qu'elle soit hyper performante. Voilà. S'il n'y a pas le jeu dont tu as envie dessus.
Alors, elle sera plus plate, mais tu n'auras pas plus de jeux.
Il y a du jeu qui va arriver.
Il y a plus de jeux. Enfin, l'année 2009, en termes de jeux, s'annonce quand même meilleur que l'année 2008.
On parle vachement de ça, mais effectivement, ils ont vraiment besoin d'un boost de buzz. Quoi.
Tu vois une PS3 Une PS3 ?
Oh ouais, tu le fais bien.
En 2009 déjà ?
Moi, je mets en fin d'année. Non, mais je pense que la Slim, ils peuvent la faire techniquement si tu veux, parce que déjà pour eux ça va être un argument console plus verte, tout ce que tu veux. Apple est très fort pour trop fourguer les mêmes portables avec le même design, hein. Pourquoi Sony n'y arriverait pas? Mais
peut-être parce qu'ils sont moins bons qu'Apple, peut-être, je sais pas.
C'est une possibilité, effectivement, mais je pense que surtout ils ont peut-être besoin d'un buzz.
Mais ce qui va arriver cette année,
un vrai buzz, tu vois.
Ce qui me paraît évident, obligatoire, c'est la baisse de prix avant tout.
Ouais, mais ça.
Là, ils l'ont pas faite pour Noël parce que, étant donné qu'ils continuent à vendre à perte, etc., il fallait pas qu'ils s'excluent un peu tous ces.
Ils se sont quand même alignés avec le bon de.
Voilà.
Le bon de réduc.
Le bon de réduc
pour gagner encore quelques dizaines d'euros. Voilà.
Mais bon, la baisse de prix, c'est une évidence.
Mais justement, ça pourrait aller de pair avec un modèle plus plat, plus que tout ce que tu veux. Pourquoi pas, hein.
Dans tous les cas, j'en connais ici qui seraient bien contents d'un redesign.
Oui.
N'est-ce pas, Julien?
Moi, j'aime bien la PS3, donc ça
me dérange
pas. Le côté boursouflé? Mais attends, ça me fait ça. Le côté boursouflé m'emmerde moins que le côté appel à nid à poussière, tu vois?
Aussi, ça c'est vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour marcher, il faut aussi des jeux. Parce que c'est l'essentiel d'une console.
C'est ce qu'on disait.
En année 2008, ça a été un petit peu difficile, peu de vraies grosses exclusivités, et du coup, quand il y a du multi, perte de grosses exclus.
Il y en avait, mais il n'y en a pas si forcément de si marquante que ça, c'est surtout ça. Il n'y a pas cette espèce de killer app, le truc qui met tout le monde d'accord.
Metal Gear Solid 4, c'était quand même pas mal.
Justement, ça a été un pic de vente à ce moment-là. Et ça s'est recassé la gueule derrière.
Comme quoi, ça marche, les exclus.
Exactement.
Il y a eu résistance.
En 2009, quand même, on a des titres qui s'annoncent plutôt sympas si on y regarde bien, et qui sont des exclusivités PS3. Alors, il y a le fameux hypothétique jeu de la Team ICO, mais qui va bien arriver un jour, et a priori plutôt année 2009, et juste avant
Shenmue 3.
Est-ce que ce sera pour autant un système seller?
Sur celui-là, sur cet épisode-là, je pense que beaucoup plus, puisque déjà les courbes entre ICO et Shadow, ça avait bien augmenté, et je pense qu'ils vont justement le pousser comme un de leurs gros jeux. Mais de manière, on va dire, plus grand public, il y a quand même l'arrivée de God of War 3, oui, très attendu, et qui avait très très bien marché sur PS2. Beaucoup plus proche de nous, en février, il y a Killzone 2 qui s'annonce, avec, yes, un buzz quand même très fort. Alors, est-ce que bien ça fera un bon jeu?
Ah, incontestablement, ce sera un bon
jeu. Je pense
que
ça va être un bon shoot, et même moi qui peux pas saquer les FPS au paddle, je pense que je vais le prendre.
Et puis alors...
Je crois qu'on peut jouer à 30 de chaque côté. Non, c'est pas celui-là. Je confonds avec peut-être autre chose.
C'est Résistance 2.
Dans Résistance, tu peux jouer à 60. Ouais.
Alors, voilà, c'est ça, 60. Mmh. Ah, je suis désolé.
Mais il y aura un mode en ligne aussi, vachement bien pour Killzone 2, mais pas dans la même optique que celui de Résistance 2, ce qui est pas plus mal parce qu'ils vont pas faire la même chose non plus.
Et puis surtout, c'est annoncé comme le jeu de la baffe graphique normalement de la PS3, puisque rappelez-vous.
Oui,
hein,
alors c'est magnifique. C'est très gris et très brun, mais c'est vrai que c'est beau. C'est juste très très beau. Très très gris, très très brun, mais très très beau. C'est des beaux gris et des beaux bruns. Donc.
En peut-être plus coloré, mais une belle aventure, puisque le premier épisode avait été juste absolument fantastique. Ouais. Uncharted 2.
Yes. Pourvu qu'il fonctionne mieux que le premier et qu'il n'a pas eu les ventes qu'il méritait. Quoi.
T'avais pu y jouer, Marcus, le premier Uncharted ?
Uncharted, oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que
c'était un vraiment bon jeu. Hein.
Une sorte de Lara Croft mal rasée, mais très bien. Non, mais ça reprenait ce qu'on aimait dans les Tomb Raider. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses. Des dialogues comme M. Plume, bien lourdingue, genre son compagnon qui était un peu vieux au début, qui dit ah, c'est plus de mon âge de crapahuter comme ça. Et l'autre qui lui dit et pourtant, c'était de ton âge, les deux putes dans le bar l'autre fois à Cuba ou un truc comme ça. Donc voilà, il y avait deux, trois répliques assez sympas et puis c'était très spectaculaire. Il y avait vraiment des choses magnifiques.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup Uncharted, mais je trouve qu'il manquait d'idées à lui en fait. C'était vraiment le seul truc qui lui manquait parce que pour tout le reste, il était impeccable. Vraiment impeccable graphiquement, au niveau du scénar, il était rigolo et tout.
Les combats étaient vachement bien et vachement durs, aussi bons que les niveaux de plateforme. Ce qui n'est jamais le cas dans les Tomb Raider, où les combats, c'est toujours une tannée, tu ne sais jamais où les vises, tu finis par sautiller en faisant des sauts périlleux arrière dans tous les sens.
J'espère juste quand même qu'il y ait un tout petit peu moins en proportion de combat et un peu plus d'exploration, parce que voilà, il y avait quand même 70% d'action et 30% d'aventure.
Mais en même temps, tu disais que tu étais tout le temps dans cette histoire, et que c'était ce scénario, c'était une vraie aventure, quoi.
Caf.
Moi, s'il y a moins de jet ski, je serais content aussi. Hein.
C'était pas le meilleur
passage.
Ceux
qui ont fini, vers la fin du jeu, là, c'est juste super relou.
Bon, enfin, quand même, regardez, si on les voit, et il y aura d'autres surprises.
Il y a Infamous aussi.
Ouais, voilà, Infamous.
Moi, je l'attends beaucoup. Hein,
Heavy Rain, peut-être.
Heavy Rain, ouais.
Alors, Heavy Rain. Ça, j'y crois pas 5, du tout, peut-être. C'est marrant. Hein. Heavy Rain me.
Marcus n'y croit pas.
Voilà, je trouve qu'on en fait des caisses sur Heavy Rain.
Il a été applaudi.
Oui, applaudi, oui, mais je vois pas pourquoi. C'est des très belles images de synthèse. Ça fait 10 000 ans qu'on sait faire des images de synthèse, depuis le Seigneur des Anneaux et tout ça. Et puis voilà, et puis c'est du Quick Time Event de merde. Enfin, pour ce que j'ai pu voir. C'est
appuyé
sur croix, rond, carré. Alors, j'ai pas tout vu, sans doute, mais ce que j'en ai vu, ça me paraît. Voilà, il y a une cinématique, et puis tu fais croix, rond, carré au moment où il faut le faire, et c'est tout. C'est Dragon's Lair.
C'était
très beau, Dragon's Lair, en 1980, dans les salles d'arcade. Pardon.
Non, c'est pour les Quick Time de merde que je réagissais.
Ah, parce que tu n'aimes pas.
Heavy Rain, effectivement, ça a l'air vraiment interactif. Quoi. Il y en a dans Shenmue, mais dans Shenmue, il y a tellement d'autres choses.
Moi, je suis pas, attention, moi, je suis pas aussi tranché. Hein. Moi, je pense qu'il y a une volonté de développer un vrai scénario, une vraie histoire, ce qui est quand même assez rare, finalement, dans le jeu vidéo. Et qu'effectivement, on interagit dans une espèce de grande cinématique. Mais par exemple, il y a des postulats qui me paraissent intéressants, mais que j'attends vraiment de voir comment ça va se concrétiser. Par exemple, si l'héroïne meurt, le jeu continue. Et on embraye avec une autre histoire, un autre personnage. Je ne sais pas encore exactement comment c'est traité, mais ça m'attire. Et puis voir effectivement si ça va dépasser le simple fait du quick time. Je pense que quand même, il y aura des moments où on va jouer.
Normalement, oui. Hein. Enfin, c'est comme ça que c'est prévu. Oui, ça va dépasser le stade du quick time. On va pouvoir.
Les phases de jeu que j'ai vues, ça ressemblait beaucoup à du quick time event.
Écoute, moi, j'ai envie de croire en David Cage. Parce que j'aime bien David
Cage. Moi aussi, sur le principe.
Non, alors, moi, j'ai envie de croire en Caf, qui demande la parole.
Alors justement, David Cage.
Je n'appellerai pas David Cage.
Oui, parce qu'il s'appelle Cage.
Il s'appelle Cage à la base, il est français.
Et donc, pour moi, c'est un peu notre Peter Molineux à nous.
Pipoteur, tu veux dire.
Tu vois, ça le fait mal. Là.
Bah ouais, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, tu regardes tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il a promis sur les anciens jeux.
Omicron, c'était un bon jeu.
Ok, super. Si on reprend tous les Omicron, tu vois, c'est un peu le problème de la mémoire. On oublie tous les défauts, etc. Il y avait des bons trucs. Il y avait aussi des trucs à chier dans Omicron. Il y avait des bons trucs. Mais c'est...
Dans Fahrenheit, il y avait des bons trucs et des trucs à chier.
Voilà. Et c'est pour ça que Fahrenheit, les notes, elles vont de 3. On prend sur 10. Hein, on va faire simple. Elles vont de 3 à 9. Voilà. Il y a des gens qui ont adoré.
Il a tenté.
Mais il y a des trucs qu'il a tenté. Mais c'est pour ça. Mais comme Peter Molineux, je prends pas juste le côté pipeau. Je dis qu'il y a des trucs genre, oui, alors il y a un scénario de 150 000 pages que j'ai écrit moi-même en m'enfermant dans une chambre d'hôtel. Bon, ok, super. Maintenant, j'attends de voir le gameplay. Ah, et mais pour l'instant, la 3D, elle a l'air ok, fantastique. Il a des super programmeurs, il y a des thunes sur le projet, il y a de la motion capture. Et dans tous les jeux David Cage, il y a de la motion capture.
C'est normal, il a sorti Greenhouse à Quantic Dream. Donc.
Mais voilà, ils ont un truc qui loue d'ailleurs, ils font de la capture pour payer les jeux d'ailleurs. Oui. Aussi. Voilà. Donc, bon, maintenant, j'attends vraiment de voir le gameplay. Je rejoins complètement Marcus là-dessus. S'il essaye de me refourguer du Quick Time Events, ça sera sans moi.
Alors, sauf que Infamous.
Ah voilà, ça c'est du
là
jeu.
C'est l'inverse. Je sais qu'il y aura du gameplay parce que c'est Sucker Punch, c'est les gars qui ont créé l'un des tout
Sly
meilleurs
Raccoon,
ouais, Sly Raccoon, Sly Raccoon, une des toutes meilleures séries de plateformes 3D de la génération précédente
avec des lunettes 3D même.
Oui, il y avait même un épisode effectivement avec des lunettes bicolores pour voir des niveaux en 3D qui étaient pas mal, c'était sympa. Bon, c'était un peu gimmick mais c'était sympa. Et c'est des gens qui maîtrisent vraiment un la narration et deux le gameplay, le vrai plaisir de jeu, et je pense que pour le premier jeu mature qu'ils font depuis des années, ils vont s'éclater. Je suis sûr qu'Infamous, ça va être super bien.
Bah déjà, les vidéos, enfin, les petits teasers qu'on voit, c'est juste t'as envie de prendre le paddle et t'as envie d'y aller.
Pour remettre dans le contexte, c'est un espèce de GTA-like, donc c'est un jeu sandbox qui se passe vraiment dans une ville entière, mélangé à du Assassin's Creed pour l'aspect crapahutage un peu partout, je peux me balader partout, et du super-héros qui est très à la mode aussi en ce moment, avec un héros qui a des super-pouvoirs, qui ne sait pas trop comment est-ce qu'il les développe, etc. C'est très basé sur l'électricité, et ça peut donner des scènes d'action, des scènes de plateforme et des scènes narrative vraiment intéressante. Mm-hmm. Moi, j'y crois énormément, presque autant que le jeu de la Timico.
Alors, est-ce que du coup, tout ça, mis l'un dans l'autre, si on le secoue, un bon petit shaker, est-ce que ça permettrait à la PS3 de s'imposer un peu plus ? Parce que dans le même temps, soyons honnêtes, on a un peu l'impression que du côté, en tout cas, exclusivité, Microsoft a balancé beaucoup de ses cartouches sur l'année dernière, sur 2008. Et que cette année, ils ont récupéré, et bien leur en fait, d'énormes jeux multi qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Resident Evil 5, qui sort le vendredi 13 mars 2009. ils ont récupéré aussi Final Fantasy 13. C'est incontestable que c'était très, très gros coup.
Ah oui, le Versus reste Sony, ouais.
Ils ont des très gros jeux, hein. Il y aura BioShock 2, etc. Mais en exclusivité, à part un Halo, un nouveau Halo, voilà, mais qui arrive en fin d'année, il y a pour l'instant annoncé pas tant de choses que ça.
Non, c'est vrai.
Est-ce que ça peut pas faire basculer un peu les choses ? Alors, qui veut répondre à cette question incroyable ?
Je sais pas.
Ça va être rare, visiblement.
Juste pour les exclus, il y a quand même Alan Wake dont on parle plus trop. Alors, c'est pas vraiment une exclu parce qu'on
ne sait pas trop
sur PC.
Où est-ce qu'il est.
Puis on ne sait pas vraiment si c'est un jeu en fait.
Ouais,
à force.
Non, mais d'accord,
il est très réveillé là pour l'instant.
A priori, ce sera cette année quand même.
Oui, normalement, oui.
Il n'est pas très awake.
Désolé.
Il y a quand même Star Ocean 4.
Oui, exact.
Voilà, bon, c'est RPG. Et puis, ils ont quand même des licences super fortes qui vont certainement pousser encore cette année. Il y a Forza, il y a Mass Effect qui veut peut-être faire un retour.
Forza,
effectivement, au niveau des annonces, il n'y a pas.
Pour Mass Effect, officiel, il n'y a pas grand-chose, on va dire.
Officiellement, il n'y a pas grand-chose, mais ils ont quand même un pouvoir avec toutes les licences qu'ils ont de faire du lourd cette année.
Bien
aussi.
Bien sûr.
Quoi.
C'est vrai, mais par rapport à Sony qui tire ses cartouches plus tard, là, on a l'impression qu'il est temps de passer le projecteur de l'un à l'autre, en fait, vraiment.
Peut-être que 2009 sera l'année de la PS3. Ça vous rappelle pas un truc,
ouais,
les mecs.
Ça sera le cas, ouais.
On n'ose plus le dire, mais voilà.
Ouais, parce qu'on a
se planterait pas,
voilà.
Cette fois.
Exact.
Parce que c'est vrai, quand tu regardes la liste
France,
des exclusivités
planté,
PS3.
Non,
mais si on le dit tous les ans, on va peut-être avoir bon un an.
Il y a un moment, on a raison.
Il y a des mecs qui
vont
avoir
un mort. Si au bout d'un moment, on n'a pas raison, il va y avoir un mort.
Ouais, c'est clair.
Moi, j'ai envie de dire quand même qu'on s'adresse essentiellement au public français. Le public français nous a écoutés, puisque la PS3 a été devant en termes de vente l'année dernière, en 2008. Donc, bon,
hein. Oui, on attend toujours notre com, d'ailleurs.
c'est un peu l'idée.
Hein, Georges.
Ok, donc peut-être l'année de la PS3, en tout cas une belle année, normalement, gamer, pour la PS3, et pas mal de titres qui arrivent. J'ai envie de souligner un autre point. C'est l'année dernière, en 2008, on a vraiment souligné quelque chose d'important, c'était la baisse d'influence des développeurs japonais sur la scène internationale du jeu vidéo. Les Occidentaux ayant repris vraiment une place essentielle. Est-ce que 2009 marque pas quand même, après donc quelques années un peu de flottement, un vrai retour des Japonais, avec, on l'a cité, un Mad World qui devrait faire quand même assez mal, avec le jeu de la Timico, Resident Evil qui, malgré certaines lourdeurs qu'on a pu entreapercevoir dans la démo, semble quand même assez abouti, Final Fantasy qui devrait s'imposer quand même un gros vendeur cette année 2009. Est-ce que c'est pas un peu le retour des Japonais ? Julo.
Quand tu regardes la liste complète qu'on a pu tirer sur les jeux de 2009, il y a quand même encore énormément de productions occidentales. Maintenant, c'est vrai que si effectivement, je ne sais pas, Final Fantasy XIII sort cette année, j'espère. Final Fantasy Versus XIII aussi, qui est une exclusivité PlayStation 3. Il y a aussi, oui, il y a Mad World. Enfin, tu les as cités, quoi. En gros, le jeu de la Team ICO.
Gran Turismo 5.
Gran Turismo 5, si Kazunori accepte de le sortir cette année. Mais bon,
Gran Turismo 5, dans lequel il annonce 1500 voitures. La surenchère.
Ouais. Non, mais alors là, lui, je sais, il aura coûté tellement
mais
cher.
Mais est-ce que Gran Turismo 5, au final, est-ce que ça va pas être le prologue qui va être gavé de mises à jour, etc.
Non, apparemment, il y a des nouveaux trucs. Voilà, maintenant,
ouais. Comme des déformations, par exemple.
Je pense que pas non plus.
Kazunori Yamauchi fait un peu ce qu'il veut parce qu'il a un statut d'intouchable, etc.
C'est ça que je veux savoir. Moi. Qui donne autant de blé à ce
mec. À la fois, la série Gran Turismo a ramené tellement d'argent à Sony.
Ouais,
voilà.
C'est tellement vendu à quasiment 40 millions d'exemplaires. C'est tellement la série porte-étendard de Sony. Ouais. Bon, il peut un peu tout faire.
Mais il y serait peut-être temps là. Enfin, je veux dire, l'étendard, ça serait bien de sortir avant que la console crève. Quoi, tu vois.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport aux jeux japonais, il y aura vachement plus et vachement mieux cette année.
Il y a aussi le grand retour des jeux de baston. Il ne faut pas oublier Street Fighter 4, King of Fighters 12, tout ça. Ça, c'est japonais typique. Ça, c'est impressionnant. La maîtrise du gameplay et
j'étais
tout ça.
J'étais à Tokyo. Mais encore, me l'a pété un petit peu. Mais j'étais
moi qui aime les vols long courrier.
Il n'y avait pas de grands jeux finalement, on les avait tous vus à Leipzig dans nos chambres d'hôtel pourries et donc à Tokyo les seuls gros trucs vraiment c'était Monster Hunter qui cartonne là-bas d'une manière incroyable et les jeux de baston, donc King of Fighters et notamment le dernier Street Fighter qui est un vrai retour en arrière, on revient au gameplay du bon vieux Street Fighter sur Super Nintendo. C'est de la 3D mais enfin c'est quand même vu de profil comme avant. Les personnages, il y a un style graphique qui est vraiment génial mais il y a cette compétition qui est incroyable, le fait de se baffer entre copains. C'est un truc qu'on a envie de retrouver. Et tu vas dans les salles d'arcade à Tokyo, il y a des rangées entières, des salles entières consacrées uniquement à Street Fighter. Ouais. Et les mecs se fritent. Les deux consoles sont dos à dos, tu sais pas contre qui tu te bats. Et les mecs passent leur journée à se battre les uns contre les autres. Et Arnaud parlait l'autre fois du retour du high score. Il y a aussi ce retour de la compète à deux joueurs c'est et vrai. Tout. Ça, je trouve, c'est sympa de revoir ça. Moi, je suis pas pour la performance dans le jeu vidéo, je m'en fous un peu des scores et tout ça. Mais se marrer avec des potes, c'est toujours bien. Donc j'aime bien ce retour en arrière sur le jeu de baston, ça me fait plaisir, moi.
Justement, Marcus, quels seraient en 2009, toi, les jeux essentiels que tu retiendrais et que surtout tu attends?
C'est peut-être bizarre de dire ça, mais j'attends beaucoup Left 4 Dead. Alors ça paraît, je l'ai pas encore, c'est pour ça que je l'attends. Et je pense que c'est un jeu qui va rester longtemps, qui est un jeu multijoueur qui va rester
longtemps.
C'est
vrai longtemps. Que Valve, Sony, ses productions.
Ouais, je pense qu'il va faire beaucoup dans cette année-là. Mad World, j'attends beaucoup parce que ça m'a l'air tellement, tellement fou ce truc. Voilà, c'est ce genre de choses que j'attends. Après je sais pas, j'aime bien me laisser surprendre aussi donc l'année dernière j'étais vraiment très surpris par Pain, je vais pas y revenir encore. C'est jeu vidéo où on balance un mec dans une catapulte, j'ai envie de choses comme ça, j'ai envie de surprises, j'en ai marre des Call of Duty 3, 4, 5, 6 des Need for Speed Underground 12,
ah, ça machin, y est,
celui-là a priori c'est réglé,
j'en ai un peu marre ouais. Mais voilà, alors on a vu une petite bande-annonce rigolote du prochain Beyond Good and Evil.
Oh là là,
ce serait bien de laver l'affront et l'injustice de Noël d'il y a, c'était quoi, il y a 2 ans. C'était 2 ans, 3 ans, 3 ans déjà, je crois, où Beyond Good and Evil a été encensé, 4 ans, ça a été encensé par la presse. Au moment de Noël, on pensait que ça cartonnerait, c'était un jeu super sensible, beau, enfin tout ce qu'il y avait. Et qui a remporté la timbale ce Noël-là? Need for Speed Underground avec du tuning, voilà. Et je me dis, mais les gens ont des goûts de chiottes, ils préfèrent le tuning à un beau jeu comme Beyond Good and Evil. Donc j'espère qu'en 2009, l'affront fait il y a quelques années à Beyond Good and Evil sera enfin lavé. Voilà
mais ce que est-ce qu'ils auront là? Tu crois, le courage de refaire la même chose.
J'ai envie d'être surpris. J'en ai marre des licences avec des. J'en ai marre que les jeux qu'on nous annonce, c'est gna 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 2, gna 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 3, gna 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 4.
Tu noteras que de plus en plus, de manière fourbe, ils mettent plus les numéros. Ouais. Je parlais de Call of Duty, c'est plus Call of Duty 6 ou 12, machin, c'est Call of Duty World at War. C'est maintenant, c'est la mode des sous-titres.
Oui, mais je trouve
que. Parce que Call of Duty n'est pas développé, celui-ci n'est pas développé par le même studio aussi, c'est pour ça.
Et justement, ouais, Modern Warfare devrait s'appeler peut-être Modern Warfare 2, justement pour bien souligner à quel point c'est...
A priori, oui.
Moi, je trouve que c'est bien quand ils ont le courage de lancer quelque chose de nouveau. On parlait de Dead Planet. Dead Space, pardon. Dead Space, c'est vraiment un truc. Voilà, ça sort de nulle part, on n'en connaissait pas le personnage, c'est pas relié à un film. Voilà, ça sort de nulle part, c'est bien. Et bah, tant mieux si après, ça fait des petits et s'il y a un Dead Space 2.
Alors après, c'est compliqué aussi, parce que justement, dans le cas de Dead Space, donc c'est Electronic Arts,
faire ce qui, jusqu'à présent, et on l'a critiqué là, à juste titre sur les Need for Speed Underground, on pourrait le faire sur les FIFA ou quoi que ce soit, d'être,
Harry
même
Potter.
Si FIFA est très bon hein, cette année, mais c'est de, d'essorer à plus soif ces licences.
Sims.
Voilà. Et donc là, ils ont été très courageux en fin d'année 2008 en lançant à la fois Mirror's Edge, très innovant, rafraîchissant, et qu'on a vraiment aimé ici, et aussi Dead Space. Mais on voit que c'est difficile de le traduire en, en bonne vente et que c'est l'année la pire d'Electronic Arts, quasiment de son histoire. Mirror's Edge est un flop sidéral. Dead Space a pas si mal marché que ça, mais sera en dessous du million d'exemplaires. Pour un titre de cette ampleur, c'est quand même dommage. On l'a vu aussi avec Little Big Planet hein, de la part de Sony. Jeu vraiment rafraîchissant, étonnant, mais qui remporte pas un succès cosmique non plus. Hein.
Mais c'est
difficile toujours de lancer des licences.
Ouais. Mais c'est de l'investissement, c'est pas la même stratégie, c'est traditionnel.
C'est un risque, c'est prendre un vrai risque.
C'est les suites qui commencent à bien marcher quand les premiers étaient vraiment bons.
Mais je préfère ça, tu vois. Je préfère que les mecs créent quelque chose qui sort de nulle part et puis qu'ensuite ils fassent un numéro 2, un numéro 3 parce que c'était bien, plutôt qu'ils nous fassent Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, on s'en fout, quoi.
Oui, c'est sûr.
Moi, j'aimerais poser une question sous-jacente à tout ça, c'est quel est finalement l'impact de nous, un peu, journalistes de jeux vidéo, qui défendons corps et âme ces titres-là, pas de manière butée, et pas parce qu'on va privilégier uniquement les expériences hardcore gamers.
Mais parce qu'on sait la vérité,
mais
c'est
parce
tout.
Que, oui, mais parce que c'est des jeux qui apportent quelque chose à ce média, qui sont accessibles aussi pour le plus grand nombre. Little Big Planet, pas la peine d'être super hardcore gamer pour comprendre comment ça fonctionne c'est et ça. S'amuser avec. Un Dead Space très efficace, peu... pas si difficile à manier que ça dans l'absolu, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment écouté ? Est-ce que le marché n'est pas aussi un peu en train de changer ? Et finalement, bah, à part une niche de gamers,
on touche un peu moins de personnes. Je pense qu'en tant que journaliste, on n'a pas une grosse influence, hein, honnêtement, je ne pense pas que ce soit très important. On a une influence sur les gamers qui se renseignent et qui s'informent, donc on peut leur éviter de cracher 60-70 euros pour un jeu de merde qui arrive de temps en temps. Donc je pense qu'on a une influence plutôt négative. C'est-à-dire qu'on va empêcher quelqu'un d'acheter un truc où il se disait « Ah, ça va être vachement bien, Harry Potter !» Et il achètera autre chose à la place, mais j'espère qu'il fera le bon choix. Quoi, voilà.
Le problème, Julo. C'est que la part du gamer, elle est complètement... dilué maintenant oui. Dans la part générale qui est enfin je veux dire l'arrivée du casual gaming et des nouveaux joueurs etc enfin on est moins important que jamais à ce niveau là donc je serais pas très optimiste là-dessus quoi.
Plumeau.
On peut dire que le marketing joue pas mal aussi hein. Je veux dire PES par exemple qui a été quand même descendu en flèche c'est très bien vendu
injustement.
En France injustement ou pas après c'est un
débat. Je vous renvoie
c'est très bien vendu en France et je pense que déjà il bénéficiait d'une bonne image sur les années d'avant et que voilà tu fous Akhenaton contre Didier Drogba à la télé bah voilà les gens ils font oh mais c'est génial Akhenaton il joue à PES mais je joue aussi à PES
enfin, c'est moins génial pour Akhenaton qui se prend quand même deux baffes coup sur coup entre la pub pour la PES sur Wii et ça il perd deux fois quand même
ouais mais bon après ça c'est son problème à lui il est marseillais en même temps hein, donc je sais pas
je te remercie de souligner
putain
enfin, je te voilà. Que Drogba a explosé à Marseille hein.
Stop. Ouais, non, mais voilà, après, je pense que la.
Alerte football. Restez chez vous, fermez les fenêtres.
Faut que ça soit bien marqué. Je pense que Little Big Planet, par exemple, s'il avait été présenté, je sais pas, par le Falifamant ou je sais pas qui, enfin, ça aurait peut-être marché, hein. Mieux que ça. Peut-être que si.
Non, elle a essayé avec Vista, ça a pas marché non plus.
C'est vrai, Vista a pas marché ?
Non, Flavie.
Ah mince, je croyais pourtant. C'est pour ça que j'avais pris comme exemple.
Pas aussi bien qu'ils aimeraient que ça marche.
Et quelqu'un sait pour le Play TV ou pas ?
Oui, c'est ce que j'allais dire avec Benjamin Castaldi. Les ventes sont pas si mauvaises que ça, mais ça reste dans les centaines de milliers de pièces. Bah, et puis surtout, le problème de Play TV, c'est que c'est une console HD,
c'est pas HD
et que la Play TV n'est pas HD. Alors là, quand même, il faut qu'on m'explique. Toute la communication de Sony avec la PS3, c'est la seule vraie expérience totalement HD, du Blu-ray au jeu. Et on sort un truc Play TV, et bien on peut pas...
Mais surtout qu'il a été complètement bizarre. Play TV vendu comme un truc Full HD, etc. Et TNT HD.
Ouais.
Mais apparemment, ça va se passer avec une mise à jour.
Non mais attends, c'est pas possible. Vu la connectique qui est sur le truc, de toute façon, c'est niette, quoi.
Bah je sais pas.
Non, c'est de la merde.
J'aime quand les avis sont tranchés.
Ça, ça c'est fait.
Voilà. Bon, il nous reste quand même à parler de quelques titres et justement un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait l'année dernière. J'ai envie de dire, c'est ça qui est beau. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour savoir un peu quels sont les jeux que vous attendez le plus chacun, parce que mine de rien, il y en a pléthore. On va pas tous les citer en masse. Raon, tu.
Ouais. Non, il faudrait qu'on fasse peut-être un petit point. Moi, j'aimerais bien savoir sur le PC aussi, parce qu'il y a des jeux que j'attends sur PC cette année. Mm-hmm. Mais je me demande par rapport à l'année dernière, comment est-ce que le PC va se comporter cette année ? Parce que l'année dernière, on a eu quoi ? On a eu Team Fortress 2, l'extension de World of Warcraft, les débuts.
Left 4 Dead.
Left 4 Dead, qui est sorti sur 3.6 aussi.
Non, on a eu pas mal de jeux, mais cette année, en fait, ça va continuer.
mais il y a un peu de tout. Il y a des expériences avec des jeux comme Demigod qui, à mon avis, vont être supportés par.
C'est quoi ça, Demigod?
C'est le nouveau Chris Taylor.
Ouais, Chris Taylor is back. Enfin, il essaye. C'est un jeu qui est repompé sur un gameplay qui est très connu des amateurs de jeux gratuits, en fait, qui s'appelait Dota. Defense of the Ancient, c'est un truc qui se mettait sur Warcraft 3 à la
base.
C'est
ça, une modification du jeu Warcraft 3 de Blizzard.
Voilà, donc en gros, t'as des héros qui se bastonnent et qui doivent, en support, ont des petites créatures qui sont débiles, qui vont toujours au même endroit en fait, et toi, tu vas te battre en les aidant, etc. Et là, ils ont repris ce gameplay-là, ils ont fait un jeu super beau avec des demi-dieux, etc. Je suis pas impartial, j'avais tellement envie d'essayer que je l'ai acheté en fait en précommande, parce que en fait la préco te donnait le droit d'avoir la bêta, donc comme ça j'ai pu l'essayer en bêta. Et pour l'instant il y a encore plein de défauts, même les dernières bêtas, mais ça fait partie des produits qui sont pas des grosses licences, qui sont pas des grosses machines marketing derrière, mais qui par le buzz du net, faut pas se leurrer, risquent d'avoir des belles carrières en 2009 s'ils sont réussis
sur BitTorrent.
Non, parce que justement, c'est la beauté des jeux online. Les jeux online échappent au piratage, puisque le piratage, ça marche pas du tout quand t'as pas ta clé pour aller jouer sur Internet. Ou alors, faut aller sur des serveurs pirates. Et là, ça devient super chiant. Donc, les gens finalement finissent par l'acheter. Non, par contre, j'attends du MMO, j'attends du StarCraft 2.
Ouais.
Et ça va juste être énorme. En phase
ça
de StarCraft 2.
Division 3 surtout.
Ouais,
il y a 3 épisodes. D'abord la campagne Terran avec le jeu réseau, et puis ensuite les Protoss et les Zergs, donc les 3 grandes races de StarCraft, qui est un jeu de stratégie colossal en Corée et partout dans le monde. Et qui va encore faire un carton parce que c'est Blizzard de toute façon, donc voilà, il n'y a même pas à se poser de questions.
Et ce qui est drôle, c'est que c'est même pas une décision du marketing de sortir 3 jeux. Tu te dis, c'est pour nous enfourguer 3 fois. Ouais. Non, c'est les développeurs qui ont fait on fait chier, on n'a pas le temps, on va peaufiner ça, et après voilà.
À moins que ce soit les développeurs qui commencent à devenir des marketeux.
Non, mais je pense que justement les mecs voulaient faire le truc correctement, et en interne
les campagnes étaient trop longues. Voilà, en fait, officiellement les campagnes étaient trop longues.
Ça donnait trop.
On a un jeu tellement énorme qu'on va couper en 3. Ça m'a l'air tellement marketing.
Elle est tellement grosse que ça peut pas rentrer.
Ils s'en foutent parce que ce qui va faire la vie du jeu, c'est le multijoueur, et tout sera déjà dans la première version.
D'accord.
Donc après, moi, ce qui me fait douter, c'est les ventes des prochains épisodes, mais c'est leur problème. Non, on a Warhammer, Dawn of War 2 en face. Warhammer 40 000, un autre STR qui s'annonce super beau et hyper bourrin là pour le coup. Donc sur le PC, en tout cas, jeu stratégie, sur 2009, il est peinard. Et puis le côté MMO, le prochain Next Challenger contre World of Warcraft. Je rappelle, World of Warcraft, l'année dernière, ils ont mis l'ami KO du monde quand même. Donc il y a eu Hellgate qui est mort, il y a eu Tabula Rasa qui ferme en février cette année.
Très bien.
Warhammer. Voilà, Warhammer, ils en ont vendu 800 000 boîtes, il doit rester 400 000 abonnés. Enfin, tu vois, tout va bien, quoi. Et donc, le prochain, c'est Ion. Donc, c'est un jeu de chaîne, c'est soft.
Mais là, c'est un
ceux qui ferment Tabula Rasa.
Ouais.
Par contre, voilà, c'est un vrai challenger. Parce que c'est développé par une des meilleures équipes coréennes qu'ils aient. C'est super beau. En termes de gameplay, il y a des super idées.
Ça marchera forcément en Corée.
Ouais, voilà. On y reviendra plus tard, mais un MMO où les persos sont juste trop des poseurs avec la classe intersidérale, avec des armures étincelantes, des ailes.
Et Dragon Ball en MMO ?
Non.
C'est pas pour cette année ? Oui. Ah, mais moi, j'ai envie d'y croire.
Oui, comme le film, oui.
Ouais.
Ah non.
Non,
ça, c'est pas possible.
Non, mais voilà, le MMO risque d'être du niveau du film.
Non, mais. Oh, allez. Mais il sortira qu'en Corée, il sortira. Pas chez
ouais, mais c'est le problème en fait. C'est un jeu qui est prévu pour le marché asiatique, et là, à partir de là, c'est mort. Alors que Ion, contrairement à toutes les productions coréennes classiques, il a été développé pour le marché nord-américain. Ils ont demandé des retours des Européens, et on en reparlera plus tard. Et en plus, on peut se bastonner en volant, c'est trop la classe.
Ça va être bien, ça va être en 2009, une belle année en perspective. Et justement, pour mieux s'en rendre compte, Plumeau, je me tourne vers toi, tu vas ouvrir le bal. Voilà. Quels sont donc tes titres les plus attendus de cette année 2009? Est-ce qu'elle s'annonce aussi épique que 2008? À toi de nous faire rêver.
Bah écoute, je t'avoue que j'ai plus d'appréhension que d'idées de bons jeux pour l'année 2009.
Je te dis, à toi de nous faire rêver, s'il te plaît.
Ouais, mais justement, alors bah évidemment, il y a le jeu de la Team Ico, mais comme on sait rien.
Voilà, donc pour l'instant, on va y passer assez vite. Hein.
Ouais, donc ensuite, Resident Evil 5, malheureusement, j'ai joué à la démo et je suis un peu déçu.
T'es refroidi, toi?
Ah oui, je suis complètement refroidi, ouais. Quand tu vois que les zombies ont évolué, qu'ils ont gagné en vitesse, en nombre, et que toi, par contre, tu restes toujours un piquet super raide et que t'arrives pas, t'en chies pour fuir.
L'absence de tir en mouvement est quand même assez sidérant. On l'a vu sur Dead Space, ça apporte vraiment quelque chose.
C'est plus que ça. Je te dis, c'est le fait qu'il soit lent et qu'il soit raide, quoi. Pauvre Chris.
Est-ce que c'est pas un moteur, justement, pour la peur, justement, pour te faire flipper un petit peu, pour que Pour que tu te sentes complètement bah, non
frustré, oui, mais, mais pas, Dead Space pas, a prouvé okay. qu'on pouvait très bien se déplacer et flipper tout comme tout jamais.
C'est une
quoi.
Vraie question candide, ouais. attention. Hein.
C'est une vraie réponse franche.
Bah, sinon, oui, alors après Diablo 3, on ne sait pas s'il va sortir en 2009, mais j'aimerais bien le savoir. Et c'est un peu le jeu que, voilà, que tout le monde attend.
C'est vrai que c'est con.
Qu'à faire sortir Diablo 2 sur GameFAQs dans les charts.
Le nombre des de facts, personnes, ouais. d'ailleurs, autour de cette table à repasser, qui ont réinstallé Diablo 2 à la Diablo 3 comme des cons.
Et voilà, c'est tout à fait ça. Et puis, il y a un jeu dont on n'a pas parlé, qui, moi, me tient à cœur.
De quoi s'agit-il,
Peut-être que ça ne te parlera pas à toi. Hein. Peut-être qu'à CAF, ça lui parlait et à Raon aussi. C'est Blood Bowl.
Oui, c'est une prod française.
Moi donc,
Alors, parce que moi, Blood Bowl, j'étais un grand joueur de Blood Bowl. Enfin, j'étais un grand joueur. Je jouais beaucoup avec mes amis à Blood Bowl, qui est un jeu de plateau génial.
Des petites figurines.
C'est du football américain dans de la fantasy, avec du sang.
C'est un peu comme Cobra, un épisode.
Exact.
Sauf que c'était du baseball. Mais sauf que là, c'est du football américain, mais.
Oui,
c'était fantastique.
Et donc voilà, et Blood Bowl, c'est des petits gars français, Yannick, donc qui ont déjà fait Chaos League, qui était pas trop mal, mais bon, qui était perfectible. Là, cette fois, ils ont eu la licence.
Alors attention, parce que CAF, quand tu dis que t'es pas trop mal,
je te signale quand même que tu me l'as fait faire.
Exact.
Voilà.
Mais tu as été trop gentil avec ce jeu.
Non, c'était pas mal.
Non, il y avait des bonnes idées.
Il y avait des bonnes idées.
Il y avait des gobelins qu'on pouvait massacrer, rien que pour ça, c'est bien.
Et maintenant qu'ils ont Blood Bowl, qu'ils ont la vraie licence et qu'ils ont Games Workshop qui doit être quand même un petit peu derrière, peut-être qu'ils vont faire un truc un peu plus proche du.
J'espère surtout qu'ils ont un. Enfin, s'il y a des bonnes idées, souvent il y a des bonnes intentions chez eux, mais il y a un problème de gameplay après dans la réalisation, dans la fluidité du gameplay, dans comment tu t'éclates avec le jeu, quoi.
Passer celui-là en temps réel, c'est pas facile. Hein.
Non, c'est hyper tendu. Ouais. Mais en même temps, on attend toujours un vrai speedball en 2009. Hein.
Donc bon, tu vois, ça fait combien de temps qu'on attend un speedball?
Voilà, mais tu vois, il y a plein de trucs à faire pour du football où tu peux shooter la tête des mecs.
Donc Marcus m'avait dit qu'il y a les deux en fait gameplay, donc en temps réel et pas en temps réel.
Pour alterner en tour pas tour.
Mais le truc, c'est que pour les joueurs jeux vidéo, peut-être qu'il faut essayer de trouver quelque chose de plus fluide que du tour par tour justement, qui peut être bon. Bah tu joues, ça fait 3-4 heures que j'attends là que tu déplaces tes bonhommes.
Mais ils ont essayé avec le remake de speedball justement.
Ouais.
Mais bon.
Et donc ça peut être. Enfin, faut trouver un juste équilibre quoi pour que ça soit.
Je l'attends avec impatience aussi, mais il y a quand même le plaisir d'avoir les petites figurines en main, qui est quand même un truc que tu ne retrouveras jamais sur un jeu vidéo.
Faut le temps de les peindre et tout.
On était jeunes.
Donc finalement, tu flippes un peu pour Resident Evil 5.
Complètement même.
Par contre, t'es plein d'allant sur Blood Bowl. Un dernier titre qui t'attirerait, ou est-ce que c'est une année qui s'annonce morose pour plus beau en termes d'attente?
Écoute, j'ai envie de te dire que j'ai envie de voir le combat entre FIFA et PES à la fin de l'année. Hein. Encore une fois, parce que pour moi.
On l'avait annoncé, hein, 2009 sera vraiment l'année de la décision.
Pour moi, PES a vraiment. Là, ils doivent vraiment se remettre en question. Ouais, et j'espère qu'ils l'ont fait. Hein, parce qu'on ne peut pas rester sur des bases comme ça quand on a un FIFA comme ça en face. Quoi.
On est assez d'accord. Donc, effectivement, là, c'est rendez-vous plutôt en octobre. À ce moment-là. Marcus, donc visiblement, je te voyais frétiller du regard sur Blood Bowl, mais est-ce que tu as d'autres titres que tu attends particulièrement cette année 2009?
Vraiment, on peut demander ce qu'on veut.
Bien sûr, c'est le début de l'année, fais-toi plaisir.
Même si ça n'existe pas.
Tu peux lancer des pistes et on verra si elles seront reprises.
Alors, cher Père Noël programmeur, j'aimerais un MMORPG sur console. J'aimerais un Warcraft, un Star Wars Galaxy sur console. Parce que moi, je ne joue plus au PC depuis 10 ans, parce que j'en ai marre de rajouter des cartes graphiques, des cartes mémoire, des machins qui ne marchent pas et tout ça, ça me saoule. Du PC à cause de ça, mais j'aurais quand même envie de me taper un Warcraft ou un truc comme ça, un bon gros MMORPG.
Achète un Mac et joue à WoW
sur console, par exemple. Voilà.
Tu peux jouer à Final Fantasy 11, cela dit.
Ouais, mais alors j'ai jamais aimé les Final Fantasy, ça me saoule. C'est assez curieux,
mais cela dit, il est très proche des jeux de MMO traditionnels, quoi.
Alors,
à l'américaine,
peut-être j'essaierai.
Non, il est
peut-être
très
me convaincre. Donc, ça, c'est le premier truc numéro 1. J'aimerais bien le retour du jeu d'aventure. On en parle avec Plume. J'aimerais vraiment qu'on ait des Day of the Tentacle, des Monkey Island, des choses comme ça, qu'on retrouve ça, du click and play, même sur Wii, ça m'irait, voilà, ou point and click comme tu veux. Voilà, j'aurais envie de voir ça. J'aimerais bien aussi, j'adorerais Star Wars Racer sur PlayStation 2, qui était un excellent jeu de course tiré d'épisode
le jeu qui était sorti en arcade, c'est ça?
Oui, voilà, moi j'ai adoré.
Mais pourquoi
ça,
Marcus? Pourquoi on va être obligé de te défoncer?
Parce que je suis un vieux fan de Star Wars.
Explique pas tout.
Dans épisode 1, j'avais adoré la course de pod que j'ai joué dans une salle d'arcade, effectivement.
C'était un jeu Sega, c'était pas le même.
Qui était fabuleux, mais il était très bien, même sur Dreamcast à l'époque. Je l'avais acheté sur PlayStation 2. Je me suis
régaler sur mon écran géant. Voilà. Et à chaque fois que je joue à MotorStorm, premier du nom, et que je vois ces canyons magnifiques, on dirait qu'ils ont filmé dans le Grand Canyon, je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'aimerais jouer à
Star Wars
Podracer là-dedans. Voilà. Donc j'aimerais que LucasArts me fasse une version spéciale de Podracer sur console Next Gen pour moi. Voilà.
Moi j'ai mon écran géant. C'est ça qui est beau avec Marcus.
On peut
cet
rêver.
Aspect un peu naïf qu'il peut avoir.
George Lucas, c'est qu'il rend sympathique.
Fais-nous voilà, des bons Star Wars d'abord.
Faire des Clone Wars et des dessins animés pourris, fais-nous ça. Et voilà. Non, et j'aimerais aussi pouvoir lancer Paris Hilton dans Pain. voilà. Et ça, là, ça me paraît plus probable. Ça me paraît plus probable. Voilà, voilà. Sinon, comme gros. Non, sinon, sérieusement, voilà, j'attends beaucoup Mad World. J'ai pu y jouer, j'ai eu de la chance de pouvoir y jouer. Et vraiment, j'ai trouvé ça très, très bien et très, très drôle. Voilà. Après, les trucs, les deux, les trois, de plein d'autres trucs qu'on connaît déjà, truc. Ça commence à me saouler un petit peu. J'ai envie d'être surpris, vraiment. C'est ce que je disais. J'ai envie qu'on me surprenne. Voilà. Donc, surprenez-moi.
C'était un appel lancé par la Fédération française de marché.
Est-ce qu'on peut pour l'année 2009 souhaiter chacun notre personne pour Payne justement
notre demi. S'il te plaît.
Moi je voudrais voter pour Raymond Domenech. Tout à fait officiellement. Donc je sais pas, je voudrais faire un tour de table aussi. Julo,
je vais y réfléchir. Je vais réfléchir.
Moi je sais Madame de Fontenay. Parce qu'avec les chapeaux tu peux faire des double hit combo fantastiques. Et en dernier en bonus au fond tu mettrais l'ex Miss France, ce serait nickel.
Moi je soutiens Marcus à fond pour Paris Hilton. Mais à fond.
Ah bah oui.
Fond.
C'est obligé.
Il n'y a pas mieux.
Elle n'a pas besoin d'argent, contrairement à David Hasselhoff. C'est dommage. On n'est pas près de l'avoir.
Caf, ton perso.
Non, mais là, pour aller avec Paris Hilton, je pensais à Kim, la pute, la Kachachian.
Ah, Tradition.
Comment elle s'appelle
Karachian.
Qui est super chiante, ouais.
Kim Karachian.
Ouais, c'est Kim Karachian.
Je ne sais même pas de qui vous parlez.
Kardashian, voilà, Kardashian.
C'est au secours. Et
c'est le nouveau phénomène. C'est la next Paris Hilton.
Je te trouverai des vidéos, vraiment. Et toi aussi, tu voudras la lancer dans Pain.
Mais mine de rien, elle est insupportable, mais elle est quand même plus mignonne que Paris Hilton.
Ah bah c'est pas dur.
Ah non, bah pour moi une tête d'oiseau. Bon,
bref, j'ai l'impression qu'on dévie là.
Pas du tout.
Mais non, mais oui, j'ai réfléchi. Je suis en train de me dire, je suis vraiment un bisounours parce que
j'ai envie de lancer personne.
J'ai envie de lancer personne.
Comment s'appelle le beau gosse sur internet très prétentieux?
Oh, David Vendetta.
Voilà, David.
Non, Michael David
Vendetta.
Oui.
Je pense que lui, il doit être pas cher et qu'on pourrait l'avoir vraiment.
Oui, mais le problème, c'est que lui est déjà mort. Dès qu'il ne le sait pas encore.
Oui, mais le lancer, ça ferait plaisir.
Bon, Julo, en attendant que tu trouves un personnage à jeter, quels sont les titres que tu attends pour 2009? Je suis persuadé que tu vas pas citer chez de Moutron, mais peut-être d'autres jeux.
Alors, non, pas chez... Oui, Shenmue 3, allez, voilà.
Ok, ça c'était la minute fait. Bonheur, je me fais plaisir.
Je vais pas être très original, le prochain jeu de la Team ICO, parce que voilà, ils ont fait deux jeux qui sont, selon moi, des chefs-d'œuvre absolus.
Mais la pression qu'ils ont quand même, parce qu'on l'attend tous, on ne sait rien. On a juste vu une chaîne.
Bah écoute, ils ont la pression, tant mieux. J'espère que ça les fera avancer et faire des trucs géniaux.
Une chaîne qui ressemble beaucoup au puits qui est au fond du temple de Shadow of the Colossus.
Exactement.
Ouais, de toute façon, ça. Ce qui me paraît évident, c'est qu'il y aura un lien avec, avec l'univers d'Ico et
peut-être
de
peut-être une grande unification des deux.
Mais ils sont déjà unifiés quelque part.
Ah oui. Enfin, mais ça, pour ceux qui ont fini le jeu.
Voilà.
Le meilleur.
Il y a prescription.
Il y a prescription là.
Si vous l'avez pas fait maintenant.
Les deux jeux sont liés.
Voilà. Oui, ils sont très très liés.
Et le troisième sera lié aussi. J'espère.
Bah, on espère tous.
Donc oui. Après, pas très original non plus. Alors moi, j'aime bien Final Fantasy. Donc Final Fantasy 13, j'en attends beaucoup pour. Bah pour tout ce que représente Final Fantasy aujourd'hui, l'exploit technique.
Est-ce que tu l'attends par crainte au tournant vraiment
je rappelle que je suis un des rares au monde à avoir aimé Final Fantasy 8 même. Donc moi les Final Fantasy j'aime bien, ça à chaque fois ça me fait voyager, par tout ce qu'ils créent au niveau de design quoi, je trouve ça merveilleux quoi. Et puis c'est un gameplay que j'adore et tout, donc vraiment, et puis avec
même si le tour par tour commence à avoir un peu du plomb dans l'aile,
ils innovent quand même, ils vont innover. Ouais. Ce sera tour par tour, mais on a bien vu que ça allait être quand même très.
Mais ça, ce sera même très dynamique. Pas de tour par tour, hein. Enfin, on rentrera peut-être pas dans une zone de combat a priori. Enfin,
en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera plus dynamique.
Il y a tellement de points d'interrogation sur Final Fantasy.
Et quand on a des designs, encore une fois, qu'ils ont sorti dernièrement avec Infinite and Discovery, la Remnant, qui sont vraiment pas terribles. Non, j'irai pas jusque là. Mais en tout cas, techniquement,
alors des mimoles.
Voit que quand même, à part Capcom au Japon, il y a personne quoi, qui maîtrise les consoles.
Non, mais le problème, c'est que chez Square Enix, là, tout le monde, tous les bons, sont en train de bosser sur Final Fantasy XIII. C'est une évidence.
C'est un peu l'idée.
Ouais. Si tu considères Uematsu comme Uematsu, qu'est-ce que je dis comment il s'appelle, Nomura comme un bon. Moi, je peux pas le saquer.
Mais Nomura, il a pris. On l'a balancé dans les orties, comme disait Marcus.
Mais non, mais Tokyo Hotel, mec.
Non, mais ce mec-là, bon, il a.
Il répond à sa culture et au quotidien du Japon actuel.
Mais oui, le Japon aime bien ce design, voilà.
Ouais, parce qu'il y aurait aurait beaucoup de personnes.
Mais alors, ce qu'il a fait avec les personnages de Final Fantasy VI sur la version, là, je crois que c'est pour la version PSP, où il y a des persos qu'il a redessinés, genre Kefka. Il est abominable. Ouais, là, on dirait un clown.
Il touche à un mythe, alors forcément, là, mais... pour n'importe qui, c'est difficile, je pense, de redessiner.
Non. Quand tu le fais penser, quand tu le fais ressembler Kefka au Joker de The Dark Knight, là, franchement, c'est pire que toucher un mythe, c'est un meurtre.
Tu as raison.
Voilà.
Ça, c'est fait.
Tu as raison. Donc, mais bon, cela dit, je le jette pas non plus pour autant de Moura.
Ça va.
Il est pas si nul.
Il est pas méchant.
Final Fantasy XIII, donc, est-ce qu'il y en a un autre?
Ouais, après, derrière, il y en a plein d'autres en fait, donc je vais pas tout
bah alors, tu vois, alors
ah on va si aller... quand même No More Heroes 2 parce que j'ai adoré le premier et puis ouais bon voilà après plein de trucs.
Raon, tes jeux les plus attendus de 2009?
J'en ai juste une tripotée en fait.
Et ben on va s'en limiter à deux, monsieur, s'il vous plaît. ça nous
alors, comme j'ai déjà parlé d'Infamous, il compte pas. Ok,
d'accord.
Alors Deus Ex 3,
pas mal,
très hâte de voir ce qu'ils vont faire. Ouais. Est-ce que ils vont vraiment réussir à ressusciter le mythe qui était le premier,
tout comme Roger?
Après ça va être un petit peu plus difficile de se décider. Bon, évidemment vous avez déjà parlé de la Team Ico, donc voilà, à l'évidence voilà.
On va le zapper, lui.
Je dirais peut-être Alan Wake, vraiment par curiosité. Ça sent l'histoire mauvais. Intéressante ouais, tu peux dire ça comme ça, mais ça c'est voilà, c'est plus pour le mystère qu'autre chose, mais Alan Wake intéressant. Ils prennent leur temps vraiment, ça fait longtemps qu'on en a parlé, cette histoire d'écrivain qui cauchemarde et qui rappelle d'autres scénarios qui m'ont toujours bien plu.
Édrondin de bois qui tombe de la colline, puisque c'était quand même la démo du premier, rappelle-toi.
C'était il y a longtemps, hein, déjà. Donc,
c'est vrai.
Voilà, j'ai très hâte de me friter aussi sur les nouveaux jeux de baston, avec vous tous. Vous mettre votre mère.
On t'attend,
comme
mec. Voilà. On t'attend.
J'en connais un autre qui a déjà dit ça avant. Donc, ouais, il y a ça. Putain, on pourrait citer plein d'autres trucs. Il y a Assassin's Creed 2, je suis sûr qu'on en entendra
parler. Ah, bah merci, parce que je l'attendais celui-là quand même. Parce qu'avec la promesse, enfin la rumeur sur la prise de la Bastille, époque Révolution française, ça pourrait être.
Il y a tas de choses à invalider du premier qui sont très bien passées parce que tu tripes au départ, mais. Il est temps de faire quelque chose de moins répétitif, de plus profond,
sûr,
plus riche ludiquement.
Donc, tu veux dire que le premier avait de très belles bases, mais c'est vrai que ludiquement parlant, il avait quand même de grosses lacunes aussi, quoi.
C'est vrai.
Tu veux dire qu'il faut faire un jeu, en fait.
Oh,
en fait, j'ai anticipé sur CAF. Hein, faut que vous sachiez parce qu'il allait le dire.
Moi, je voulais juste faire. Tu veux dire que la collection de drapeaux, c'est un peu chiant. Tu vois,
ouais, voilà. Puis, attends de répéter la même.
J'ai bien aimé le jeu, à part ça, tu vois. Je
veux dire. Ah ouais. Ah, mais moi, j'ai trippé, mais vraiment d'enfer.
C'est vrai, d'avoir une villageoise à un endroit et une autre villageoise à un autre endroit. Que tu sauves et qui te dit exactement la même chose avec la même voix.
Voilà.
Tu te dis, mais elle a pas de bol, cette pauvre dame. Et quand elle te le fait, et quand ça lui arrive 10 fois, je veux dire, dans 3 villes différentes,
oh,
ça
se fait maintenant, madame. C'était aussi courageux que vous.
Voilà, bah voilà, elle te dit ça à chaque fois, tu dis, mais la pauvre Alzheimer.
C'est pas beau. Bon, c'était tes titres les plus attendus en tout cas.
Ouais, là pour l'instant, ouais. Puis après, il y a Diablo 3.
Je suis étonnant que tu cites pas
Bioshock 2.
Bioshock 2, voilà.
Ouais, mais si vous me prenez tous les jeux, alors je vous demande d'en faire que deux. Moi, je vais faire quoi? Moi, j'arrive en fin de course à chaque fois.
Allez, on te laisse, on dit rien de plus.
Tu termines. Alors, moi, j'ai un autre, peut-être Splinter Cell éventuellement, tu vois.
Oui.
Ah, je sais pas, je me demande si on va vraiment en entendre parler.
Bah, je sais pas s'ils vont le faire en 2009 ou en 2010.
Bah, en tout cas, avec la voix anglaise, ça risque d'être compliqué. La voix anglaise, parce qu'il paraît qu'il a démissionné, parce qu'il avait gagné pas assez d'argent, monsieur Ironside.
Ah, damned.
Je vous confirme qu'il sortira en 2009.
C'est vrai?
C'est sûr et certain, ouais.
Ah, bah moi j'attends.
J'ai la confirmation.
Franchement, j'attends parce que là, ils le refont. J'avais vu une démo l'année dernière qui m'avait un peu parlé, mais
je crois qu'ils sont en train de tout changer.
Ils ont tout chamboulé.
Non, mais justement.
Ça sent la Final Fantasy XII.
C'est pour ça que j'ai
commencé trois fois.
C'est pour ça que
la table de thé, là, comme on dit déjà.
Le renversement de la table de thé.
C'est ça.
Tabula rasa.
En gros, ils repartent à zéro un petit peu, enfin pas à zéro, mais ils ont revu énormément de fondamentaux du jeu apparemment.
Et ça sera donc un jeu de snowboard, c'est ça?
Pas forcément. Ils avaient du mal, en tout cas, à finaliser ce qu'ils avaient eu en tête à la base. Donc ouais.
Ouais, donc Splinter Cell, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bon, Ion, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le MMO que j'attends pour 2009. Et puis bah sorti de là, je crois que je suis un peu comme vous tous. Vous avez un peu tout cité. J'attends effectivement.
Il y en a plein qu'on n'a pas cité.
Non, il y en a plein, mais on va dire que ceux que j'attends en tout cas ont été cités. Mais Diablo 3, comment dire,
voilà, okay, rien à dire
quoi.
En fait.
C'est non, mais voilà, j'avais sauvé un semblant de vie. Voilà.
Adieu vie,
adieu vie.
Ok,
ça va être très compliqué.
Et bien pour conclure, hein, moi personnellement, je dirais que GTA 4, The Lost and Damned, j'ai envie de voir ce que ça va donner.
C'est vrai,
t'as
épisode
raison. Inédit qui va sortir donc sur Xbox 360 en exclusivité en février prochain.
En download.
Qui a l'air encore plus noir que le premier
ouais,
en fait.
Ouais, mais
hein.
En boîte aussi, je crois qu'il y aura. Voilà. Ouais, ce sera un code qui sera livré avec. Ouais. J'attends aussi effectivement énormément BioShock 2 parce que le premier m'avait laissé un souvenir assez impérissable. J'irai très vite sur Beyond Good and Evil 2 que j'attends avec grande impatience, connaissant le talent qui avait été derrière le premier épisode et aussi Michel Ancel dont j'apprécie vraiment le travail à la fois sur le Beyond Good and Evil et aussi sur King Kong qui n'avait pas marché mais qui pour moi était un extraordinairement bon FPS immersif.
Finalement, c'est la partition sans faute quand même, Michel Ancel.
Entre Rayman, qui certes a un autre public mais qui était un très bon jeu de plateforme dans l'absolu.
Je crois pas qu'il ait fait de mauvais jeux du tout.
Non, non, franchement, Michel Ancel est quand même quelqu'un qu'on entend moins parler qu'une fameuse Jade Raymond, mais ça m'étonnerait pas que dans les prochains mois, Ubi pousse un peu Michel Ancel. Il est assez charismatique.
Et en plus,
il fait
des bons jeux. C'est très agréable à interviewer. Ouais,
carrément.
Très, très sympa.
Une vraie belle vision du jeu.
Franchement, moins mignonne.
C'est clair. Et il ressemble un peu à Frog Dubosc, mais ça, c'est encore autre chose.
Entièrement d'accord avec toi sur King Kong, qui pour moi était un très grand jeu. J'ai fait trois fois. C'est rare que j'ai le temps de finir les jeux, mais j'ai fini celui-là trois fois. Et je te rappelle que Peter Jackson, qui quand même est censé être abonné chez Electronic Arts, puisqu'ils font Le Seigneur des Anneaux et tout ça, voilà. C'est de lui-même. Lui, il a dit, j'en ai marre des adaptations d'Electronic Arts. J'aime bien ce que fait Michel Ancel, c'est un fan
suite
de
à
jeu,
Beyond
Peter Jackson, suite à Beyond Good and Evil. Et c'est donc Peter Jackson qui a décidé de confier l'adaptation de King Kong à Michel Ancel, sans doute pour une somme moindre que ce qu'il aurait exigé d'Electronic Arts. Donc c'est un mec vraiment reconnu, et encore une fois, King Kong n'a pas marché ce Noël-là, le jeu ne s'est pas bien vendu.
Il a quand même fait 4 millions d'exemplaires, mais c'était moins que prévu.
On était tous d'accord pour dire que c'était un jeu génial, et il y a une injustice aussi qu'il faudra réparer. Là.
Mais c'est amusant parce que pour l'anecdote, quand j'avais rencontré Michel Ancel, quand il y a eu ce deal justement avec Peter Jackson revenait juste quand même de la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc c'était quand même le réalisateur qui justement pour King Kong prenait quand même 20 millions de dollars rien que pour la réalisation, je rappelle, plus des pourcentages sur les entrées. Et quand il a rencontré la première fois, donc Michel Ancel était dans ses petits souliers, et Peter Jackson arrive et lui tend un Beyond Good and Evil. Est-ce que vous pouvez me le dédicacer, s'il vous plaît? Et là, pendant une fraction de seconde, il a pas compris ce qui se passait. Il y avait, mais c'est moi normalement qui devrais être. Bon, ok, très bien. Donc effectivement, ouais, je pense que par tout ça, c'est quelqu'un qui est assez inspiré et inspirant au niveau de sa réalisation. Et alors, c'est vraiment pour de la perspective, parce que quelque part, j'ai envie de croire dans le concept en lui-même de la survie en milieu urbain, I Am Alive, que j'attends.
Que
je ne sais pas du tout
l'histoire
ce qu'on peut en attendre.
Avec la bouteille d'eau.
Bah, c'est un peu ça. Vraiment, je ne sais pas du tout si c'est un grand jeu potentiel ou quoi que ce soit. Je serais même tenté de dire que derrière, il y a Darkworks, que je n'ai pas forcément été fan de leur production passée. Mais j'aime ce concept et je trouve qu'il a été très mal réalisé dans Disaster and Day of a Crisis sur Wii et qu'il avait été pas trop maltraité mais avec trop de lacunes techniques dans le jeu qui s'appelait Zetsumai Tenchi en japonais. Voilà, SOS Final Escape sur PS2. Et j'aimerais un jour qu'un jeu traite bien ça parce que je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose d'assez fort. Voilà. Bah écoutez, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire que là, quand même, on a fait globalement.
Ah, où est-ce que t'as vu mesdames, Rage, si je puis me permettre.
On a oublié Rage chez ID Software, qui sort aussi sur console et qui est un des. Techniquement aussi, peut-être un gros moteur d'avenir. Donc, moi, j'ai vachement. Enfin,
on a oublié plein de trucs, en fait. Hein, mais
on a forcément oublié plein de trucs.
Il y a aussi le prochain Rockstar, c'est L.A. Noire, qui a juste eu un teaser en 2006.
Exact.
Et beaucoup de gens pensent que ça va être cette année.
Ou alors, attention, parce que L.A. Noire, c'est. Il y a plein de choses autour de jeux qui font penser que c'est pas. Enfin, attendons-le, mais avec des grosses pincettes.
En tout cas, c'est le prochain.
Et je crois qu'on n'a pas cité God of War 3, si on
l'a cité en début de podcast, effectivement.
Mais c'était il y a tellement longtemps qu'on a oublié.
Voilà. C'est ça.
Allez, les gars, vraiment,
rien,
grand
ça se
temps
quand même
conclure.
Très bien.
Il y a plein de jeux qui arrivent et puis surtout il y a beaucoup de jeux dont on a parlé en fin d'année 2008 dont on n'aurait absolument pas pu parler en début d'année 2008 à l'époque parce qu'ils n'avaient pas été annoncés, donc probablement qu'on aura des belles surprises. Et aujourd'hui la communication des éditeurs se fait de plus en plus rapprochée par rapport aux sorties de jeux.
Exact,
donc on ne connaît pas encore les gros jeux Nintendo, ils seront probablement annoncés dans les 6 mois à venir et il y aura sûrement d'autres surprises de la part de Sony et Microsoft pour des grosses exclusivités à n'en pas douter. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour cette année 2009. Ce premier podcast, émission 82 de Gameblog. Une fois de plus, tous ensemble, je crois qu'on va vous fêter une très belle année, un beau début d'année, une belle année 2009, sur Gameblog.fr, bien sûr. On vous dit à très bientôt. Une fois de plus, merci à Marcus, merci à Plumeau, et merci à Guillaume d'avoir été parmi nous. Ça nous fait bien plaisir. Puis merci à vous. Je vous aime aussi, bien sûr. Et merci à vous qui nous écoutez. Allez, jouez bien, et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Bye. Ciao.
Ciao.